Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, hein, toutes nos excuses, il est donc 19h11, la machine a eu un peu de mal à se mettre en route, mais ça y est, c'est fait, on est avec vous, on est content en tout cas de vous retrouver pour faire un bilan foot hein, de cette saison qui est sur le point de s'achever, en tout cas c'est fini pour les championnats de Ligue 1, Ligue 2, National et les championnats étrangers. On va en parler ce soir avec ceux qui nous entourent, il y a un petit Roland de Mondial hein, autour de cette table. Alors je salue mon ami Guy Missin, bonsoir Guy, ça va?
Ça va très bien, merci. Ouais.
Bon, quelle folle dernière journée. Hein.
Ah, complètement. Déconcertante et folle.
Voilà. Je sais qui l'a fêté pendant 48 heures, le 11e succès du Paris Saint-Germain. C'est notre ami, donc Eric Liévin. Salut Eric, ça va?
Oui,
bon,
bonjour à tous.
Un point d'avance, ça va? Pas les yeux trop hauts. Hein. 48 heures de fête.
C'est ce qui suffit, mais, mais franchement, effectivement, la saison a été compliquée.
Oui. Très bien. Oui. Et puis, on va saluer aussi Eladji, qui, je sais, n'a pas raté une miette de tous les matchs. Salut Eladji, bonsoir.
Salut Philippe.
Ça va? Ça et va puis, on toi. Salue aussi Valentin. Et en plus, Valentin, je l'ai vu toute la semaine avec le blé bonnet dans les travées de Roland-Garros. Ça. Mais il a pu voir les matchs.
Ça va,
Valentin?
Tu ça va.
T'as un gros dossier sur Roland-Garros.
Ouais, Roland-Garros, ouais. Même la Vésic Elite, ouais. Tout ça, le basket.
D'ailleurs, on va. Oui, ouais, le basket est content. Hein. Donc, le Valois-Boulogne en finale.
En finale, ouais, avec Monaco.
Et puis, d'ailleurs, on va proposer un job à Eric très prochainement pour reprendre le tennis français. Voilà, mais ça, on en reparlera dans la deuxième partie de cette émission. On va joindre aussi notre ami Stéphane Dezenclos, donc dans quelques minutes. Hein. Stéphane qui nous fera le coup de cœur, coup de gueule de cette année, puis de cette saison, puis qui reviendra donc également sur les faits marquants de la saison à nos côtés. Eric et Guy, j'ai envie de vous demander, est-ce que Paris Saint-Germain est un beau champion de France?
c'est la polémique, la polémique de la semaine ou du mois un peu. Après le côté moi, c'est pour y répondre, il y a pas de beau et de mauvais champion.
Oui, on s'en rappellera plus dans quelques années. Hein, voilà, on se rappellera que Paris a eu 11 titres de champion de France.
Ouais,
voilà,
ce que je dis toujours, c'est que même si t'as gagné avec 102 points et que t'as gagné avec 15 points d'avance, à chaque fois on dit c'est qui est le champion de 2015, qui est le champion de 2017, qui est le champion de 2018. Voilà. On dit pas quel champion a gagné avec tant de points ou autre, etc. Alors, ce qu'on peut dire, par contre, c'est...
Un point d'avance à l'arrivée, on s'y attendait pas.
Ça, c'est déjà la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que Lens a fait un très, très beau parcours. Mérite déjà sa deuxième place.
Mm-hmm. On va en parler.
Et méritait d'aller chercher le Paris Saint-Germain sur cette saison. Parce qu'ils ont à la fois très bien joué et ils ont été constants sur le côté de la saison, ce qui n'a pas été le cas du Paris Saint-Germain. Mais au final, le champion, c'est celui qui a un point de plus
Bien sûr. Guy, Paris est un beau champion?
Je ne dirais pas que c'est un beau champion par rapport au championnat qu'il a déjà remporté. Mais le PSG cette année, ça a été Dr. Jekyll jusqu'au mois de décembre.
Voilà.
Et Mr. Hyde après. Il y a eu un problème. Le problème n'est pas que le problème du PSG. C'est le problème de pas mal de clubs en Europe qui ont fourni beaucoup d'internationaux à la Coupe du Monde au Qatar. D'avoir organisé une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison, ça a un peu perturbé les organismes et le mental. Parce que vous avez des clubs qui fournissent beaucoup d'internationaux. C'est le cas du PSG. Bon, dans les internationaux, vous avez ceux qui gagnent la Coupe du Monde, comme les Argentins. Alors eux, c'est la joie, l'euphorie, et après la dépression, parce qu'on a fêté le titre. Vous avez ceux qui ont été finalistes et qui ont perdu. Et là, c'est la désillusion, la déception. Comme la France, par exemple, qui aurait bien aimé aller au bout. Et puis vous avez ceux qui ont été éliminés tout de suite, comme l'Allemagne. Regardez le Bayern.
Ouais.
Le Bayern
ça a été compliqué,
a attendu la dernière journée pour être champion. L'Allemagne sortie dès le premier tour. l'Espagne, le Portugal, tout ça, c'est des internationaux qui ont fourni beaucoup d'internationaux, y compris au PSG. Donc, ce n'est pas un problème spécifique au PSG. Et moi, ce que je reproche, par exemple, à certains médias, c'est de ne pas avoir mis l'accent sur le fait que cette Coupe du Monde a quand même cassé le ressort au PSG, comme elle l'a cassé ailleurs. Mais beaucoup, beaucoup au PSG.
À Madrid, par exemple, où le Real termine deuxième, assez loin de Barcelone.
Absolument.
Voilà aussi.
Le Real finit loin.
Ou en Italie,
le Bayern est obligé de naviguer jusqu'à la dernière, la dernière journée. Bon, ils ont perdu à Mayence, contre Mayence, au stade Arena. Bon. Alors moi, je veux bien quand le PSG perd un match au Parc des Princes, c'est une catastrophe. Quand le Bayern perd au stade Arena contre Mayence, on n'en parle pas. Moi, je veux bien. Bon, bref. Mais on ne va pas revenir là-dessus. Ce que je pense quand même, c'est que le PSG a montré deux visages. Et c'est le visage du docteur Jekyll qui a basculé malheureusement dans le mauvais sens, puisque c'est là qu'ils ont commencé à enchaîner les défaites. Sept défaites.
Oui.
Depuis l'ère Qatari, ce n'était jamais arrivé.
Alors, ce n'est pas le record. Hein. On a regardé dans les stats. C'est Auxerre en 96 qui est champion de France et qui fait le doublé en plus cette année-là avec 10 défaites.
Défaites, exactement. Bon, voilà. Alors, à côté de ça, comme disait Eric tout à l'heure, comment peut-on reprocher un club qui a été leader du premier, de la première à la 38e journée? Déjà. Comment peut-on reprocher à un club de devenir recordman de titres?
Oui. 11 fois champion de France, c'est le palmarès le plus complet.
Mais c'est énorme. 11 titres de champion de France, c'est énorme. Bon, alors, qu'il y a eu des problèmes et que la saison ait été très compliquée, c'est vrai. Beaucoup de personnes n'ont pas aidé le PSG à rester dans, disons, dans cette espèce d'euphorie qu'il y a eu avant le mois de décembre. Bon, la saison a été compliquée. Moi, ce que j'ai écrit hier, c'était... Il était temps que cette saison se termine. Voilà. Il va falloir passer à autre chose, quoi.
Très bien. Alors, on va aussi avoir l'opinion d'Eladji. Puis, est-ce qu'il m'entend? Je salue Stéphane au téléphone. Stéphane, bonsoir.
Bonsoir. Oui. Je vous entends très bien.
Voilà. Alors, on va demander l'opinion d'Eladji. Et puis après, donc, ton sentiment sur cette saison de foot. Eladji, Paris a un beau champion?
Oui, bon, moi, je pense que c'est un bon champion, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant la Coupe du Monde, quand même. Avant la Coupe du Monde, on avait une équipe rayonnante, voilà, avec un trio qui écrasait tout, vraiment. Du coup, non, cette année, ils nous ont proposé du beau jeu. Du coup,
t'es d'accord, toi, c'est la Coupe du Monde qui a fait que Paris, je pense que qui avait 7 ou 8 points d'avance à un moment, finit avec un seul petit point d'avance.
Oui, la Coupe du Monde a mis un coup de frein. Et il ne faut pas oublier aussi, bon, moi je le disais, il y avait des joueurs quand même qui se préparaient pour moi pour la Coupe du Monde. C'est ce que je disais avant. Je me disais, ils se préparaient pour la Coupe du Monde en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Mais après la Coupe du Monde, il faudra voir s'ils ont autant envie ou pas. Et par exemple, le cas de Messi que j'avais pris juste avant, c'est exactement ce que je disais et c'est exactement ce que je craignais. C'était vers le début, il jouait au football, il avait des bonnes stats, etc. Et dès qu'il est sorti de Coupe du Monde, il a fait une Coupe du Monde, il a fait une très bonne Coupe du Monde. Dès qu'il est sorti de la Coupe du Monde, il est revenu avec le PSG, les bras ballants. Ça y est, en Ligue des Champions, non, il était, voilà, il savait déjà que le Ballon d'Or allait lui être attribué et plein d'autres choses. Du coup, voilà, il n'avait plus rien à jouer.
Ouais. En tout cas, c'est le club français effectivement le plus titré. Hein. On l'a dit, 11 titres de champion de France devant Saint-Etienne 10 et Marseille 9, 14 Coupes de France, 9 Coupes de la Ligue, 11 Trophées des Champions et une Coupe des Vainqueurs de Coupe. Stéphane, même sentiment que Guy et puis Eladji?
Ouais, tout à fait, le même sentiment. J'ajouterais quand même un point très important que vous n'avez pas encore personne n'a dit. C'est surtout qu'il y a eu aussi quand même quelque part un PSG avec Neymar et sans Neymar.
C'est vrai.
Faut quand même pas oublier que Neymar a été époustouflant pendant les 15 premières journées de championnat, effectivement, avec Lionel Messi. Hein. Bon, après, il a été blessé, il est revenu blessé, il a raté la fin de saison, et il y a quand même, si on regarde les stats et les résultats, il y a un PSG avec Neymar et sans Neymar. Plus tout ce qui s'est passé derrière, l'affaire Galtier avec Nice, plus effectivement la fraîcheur amenée par Lens qui a poussé tout le monde... tous les éditoriaux, tous les médias et tout, à comparer ça au Paris Saint-Germain et en français Paris, je veux dire, tout s'est abattu sur le PSG au bout de depuis ces trois derniers mois. Bien sûr, ils doivent être au-dessus de ça, c'est clair. C'est pour ça que moi, j'en parle tout à l'heure dans ma chronique, le point d'avance sur Lens, pour moi, ne veut strictement rien dire du tout, parce qu'on peut difficilement accorder, si ça veut surtout dire que Lens a été bon. Mais bon, pas trop pour le Paris Saint-Germain, mais sinon, effectivement, je crois que la phrase de Guy, c'est surtout il était temps que ça se termine, quoi. Voilà, ouais. Ça s'est en plus très mal terminé, selon moi. Ce dernier week-end a été un cauchemar pour le foot français.
Oui, d'une façon générale, on va en parler, hein. On va justement revenir, comme c'était aussi le week-end de Pentecôte la semaine dernière et qu'on avait eu un petit week-end de repos, sur les principaux résultats. Le titre, il a été obtenu donc la semaine dernière à Strasbourg, un partout, hein. Ça maintenait aussi définitivement Strasbourg en Ligue 1. On va quand même noter que Lens avait battu Ajaccio 3-0, Brest avait battu Marseille 2-1, on en reparlera, Rennes avait battu Monaco 2-0 et Lille avait battu Nantes 2-1. Et puis dans cette dernière journée, il y a une journée complètement folle, hein, puisque Clermont est allé gagner 3-2 au Parc des Princes. On s'attendait quand même peut-être à une victoire du PSG pour ne serait-ce que dire merci à Messi, dire merci à ceux qui vont partir et puis aussi aux supporters, Eric.
Mais merci à Messi, je suis pas sûr, mais
oui, en tout cas
dire,
vous
en
qui
tout
êtes cas, régulièrement dans les travées du Parc des Princes,
en tout cas dire merci déjà
aux joueurs. Façon,
après il y a quand même quelque chose qu'il faut pas, et je voulais en faire un point ce soir. Il y a quelque chose qu'il faut pas occulter. Alors je ne mets pas ce côté-là pour un mouchoir par-dessus la défaite. C'est que ce côté de match était quand même très particulier.
Oui, mais il y en a d'autres qui auraient gagné. Justement. C'est la meilleure façon de rendre hommage.
Ouais, mais je suis d'accord, Philippe. Mais le côté, c'est que c'est quand même les nouvelles ne sont toujours pas rassurantes. Ouais. Le côté que les joueurs ont été en contact vraiment tout le temps avec la famille et autres, etc. toujours pas rassurante. C'est un peu compliqué, mais ça remet pas en cause le côté de la défaite, hein. De toute façon, Paris devait gagner ce match.
Ils menaient 2-0.
Ils l'ont pas fait. Le spectacle était pas beau. Réellement, ça a été compliqué. De toute façon, toute la saison a été compliquée. Ouais. Moi qui suis abonné au Parc, c'est réellement compliqué. Donc voilà, maintenant, c'est de toute façon, c'était une saison particulière pour plein de points. On les a notés, mais aussi pour plein de points aussi en interne. Il y a plein de points en interne qui, dès le début de la saison, n'étaient pas en adéquation.
Oui, mais on dit ça chaque année.
Moi, franchement, je pense que là, il y avait aucune excuse pour le PSG. Oui. Voilà, il y avait aucune excuse. Bah, la preuve, hein, normalement, la victoire, il devait l'amener au moins pour Sergio Rico.
Oui.
Au moins pour lui. Parce que on voyait la preuve, hein, dès que Mbappé a marqué, il a brandi le maillot Sergio Rico. Voilà, pour lui faire honneur, c'est vraiment. Voilà, pour moi, ça aurait dû aller jusqu'au bout. Tu mènes 2-0 contre Clermont à domicile, tu ne peux pas perdre 3-2.
Oui, c'est clair.
Tu es les champions en titre, tu ne peux pas perdre contre une équipe qui joue le maintien à vous gagner 2-0, vous perdez 3-2. Et cette année, on a eu trop de choses comme ça. On mène au score 2-0, 3-0, et après, on a des difficultés à maintenir ce score. C'est catastrophique. Verratti, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. En tout cas, son style de jeu, etc. Mais franchement, cette année, il est indéfendable. Et là, même la passe en retrait, la bourde qu'il fait, c'est à l'image de sa saison. C'est à l'image de sa saison, il n'a pas été bon du tout. Et quand tu vois des milieux de terrain comme ça et que tu vois d'autres milieux de terrain comme Bernardo Silva, Gundogan, etc., et j'en passe, Casemiro, etc., qui excellent dans leur poste, comment vous voulez gagner une Ligue des Champions avec des joueurs comme ça? C'est très difficile, c'est pas
d'accord.
Possible.
Bon, le problème du PSG, ça a été surtout un problème défensif. Cette année, bon, la défense n'a pas été du tout à l'image de ce qu'elle était jusque-là.
Ouais. Meilleure attaque, on y reviendra dans...
Alors, meilleure attaque avec 89 buts.
Ouais.
Oui, mais c'est la quatrième défense.
Ouais.
Donc ça explique bien quelque chose.
Vous voyez
que Lens n'a encaissé que 29 buts et PSG 40.
Meilleure défense, Lens. Hein.
Alors qu'avec une défense composée de Marquinhos, Ramos... Bon, après, il y a eu... Comment il s'appelle le grand portugais.
Oui, il y a eu Danilo Pereira, qui est le meilleur défenseur, je pense, cette année du côté
de
PSG.
Kimpembe, la blessure de Nuno Mendes.
Ouais.
Ça fait beaucoup. Bon, moi, je voudrais juste revenir sur le cas Messi.
Oui.
Bon, Messi s'en va. Au revoir, monsieur. Pas de fête, pas de bonsoir, pas de rien, pas de banderole. Bon, on a insulté Messi. on a insulté Messi. Mmh. Comment voulez-vous que ce mec, il ait envie, après, d'aller saluer le public? Bon, non. Déjà. Messi, c'est 16 buts et 16 passes décisives. Ça veut dire que l'année prochaine, M. Mbappé, moi je veux bien qu'on fasse une équipe autour de lui. Qui est-ce qui va lui filer 16 caviars? Qui va lui filer les 16 caviars? On a oublié ça. On a oublié. Messi, il est ce qu'il est. Il est venu prendre du fric à Paris, peut-être. Il est venu faire ça, finir sa retraite à Paris, peut-être. Mais c'est quand même Léo Messi. Mmh. Et même sur une jambe, il vous fait 16 passes décisives et il marque 7 buts. Alors, la moindre des décences, c'était de essayer d'être un peu plus discret avec ce mec-là, quoi, voilà.
Oui. Stéphane ?
Ouais, ben, je pense que Guy l'a parlé avec ma bouche, là. Ouais. Il a dit exactement ce que je pense, c'est une honte absolue, quoi, mais c'est une honte, mais j'ai même pas de mots, j'ai honte de... Bon, je suis supporter, d'accord, du Paris Saint-Germain, mais c'est mon équipe, j'ai honte de ça, quoi. Le mec, ça a été le... J'en parlais il y a 3-4 jours avec mon fils, qui disait, je vais de moins en moins au stade, en tout cas au parc, et... Je disais, bah, je suis quand même content, j'aurais vu jouer le meilleur joueur de l'histoire, quoi. Et dans 30 ans, on dira, bah ouais, t'as joué. J'ai... Et dans 30 ans, il y a des gens qui diront, et j'espère qu'ils arriveront à se regarder en face, pour pas qu'ils arriveront, bah moi j'ai sifflé Messi. Moi j'ai dit, ta mère va te faire enculer, Messi. Et le mec, ça me sidère, quoi, c'est tout. Ça me sidère. Alors encore la saison dernière, très très mauvaise au niveau des stats et tout, peut-être. Là, au-delà de en plus contre le Bayern, ce qu'il avait déjà dit l'année dernière contre le Real Madrid, je soutiens encore ici que ça a été, on va dire, un des 5 meilleurs parisiens sur les deux matchs contre le Real Madrid. Aujourd'hui, c'est en tout cas un des moins mauvais, parce qu'ils ont tous été assez mauvais dans l'ensemble, quoi, à part Mbappé. Ça a été un des moins mauvais. Et voilà, donc les supporters, ils n'ont pas le QI intellectuel pour se dire, effectivement, ils ont raison de pester contre la politique du Paris Saint-Germain. Ils ont raison, très certainement. C'est un échec total, je pense, cette politique de club. Mais sans prendre un Messi, j'ai honte de ça. Voilà,
ouais, excuse-moi, on voit des débordements de supporters partout, Stéphane. Hein. Bon, enfin, ça, c'est un autre débat. Oui,
excuse-moi, Stéphane. Quand tu dis que Messi a fait un moyen match ou un bon match contre le Real, moi je te dis qu'il a fait un mauvais match. Et il a fait un mauvais match et carrément contre le Real Madrid, c'est lui qui tire le penalty et il loupe le penalty.
Ouais, non, mais je sais.
D'accord, il met le penalty, on gagne 2-0. Au match retour, ça m'étonnerait qu'on se fasse remonter déjà. Et il y a des fois, faut pas se louper. Tu vois, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas dire il a été l'un des bons joueurs. C'est même pas lui qui a provoqué le penalty, c'était Mbappé qui avait provoqué le penalty.
On va dire plutôt, je vais peut-être recentrer sur le match retour en tout cas. Le match retour. En tout cas.
Non, mais quand tu me dis contre la confrontation sur les deux, sur l'aller-retour, tu peux pas dire ça après. Dire je reconcentre, voilà, ici ou là. Et le match retour, on a perdu. Et le match retour, on a perdu 3-1. Pour moi, ils ont tous fait un mauvais match.
Alors que Mbappé...
Attendez, pas tout en même temps. Mbappé... Stéphane et après Guy. Ouais, Stéphane, à toi.
Moi, je maintiens ce que je dis. Je dis pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été très bons et qu'il a été excellent. Je dis que sur les deux matchs aller-retour, sur la moyenne des deux matchs, il figure parmi les 5 moins mauvais, si tu veux. Adji, il est parmi les 5 moins mauvais joueur. Si jamais il avait fait un match comme le niveau du match de Marquinhos à Madrid, alors je peux te dire que je sais même pas s'il pouvait rentrer vivant chez lui, quoi, Messi, hein. Parce que c'était ça c'est un match raté, voilà un match de Coupe d'Europe raté, quoi. Ce que fait Marquinhos, que j'adore, à Madrid. Maintenant, c'est tout. Maintenant, de toute façon, c'est du pas tout ça.
Oui, on va reparler de cette saison, hein. Ouais.
Ouais, voilà, ça c'est du passé maintenant. Contre le Bayern, là, t'es au moins d'accord quand même. Elle a dit que dans les deux matchs contre le Bayern, c'est très loin d'être le moins bon parisien. Quoi.
D'accord, mais moi, en fait, moi, Stéphane, je ne calcule pas qui a été le moins bon ou quoi que ce soit. Pour moi, la question n'est pas été là. Soit t'as été bon, soit t'as été mauvais. Il a été mauvais. Aller-retour, il a été mauvais. Il a perdu un nombre de ballons incalculable. Incalculable, vraiment. Et on a pris des buts sur des pertes de balles de Lionel Messi. Du coup, tu peux même pas me dire qu'il a fait partie des moins bons ou quoi que ce soit. Et franchement, Stéphane, dans ce sens-là où il se fait siffler, etc., tout ce que tu veux, au PSG, il n'a rien accompli. Et faut pas oublier, et comme je le disais, parce que c'est une honte, c'est vraiment une honte pour moi. Lionel Messi, quand il est arrivé au PSG, c'est vraiment, il est arrivé au PSG parce qu'il n'y a aucun autre club qui pouvait assumer son salaire et qui pouvait l'accueillir dans son club, à part le Paris Saint-Germain à ce moment-là, puisque City avait déjà acheté Grealish je ne sais combien de millions et le Barcelone n'avait plus d'argent. Du coup, il est venu au PSG par dépit et il l'a montré. Il n'a pas respecté les supporters. Il n'a jamais respecté les supporters. Même là, quand il s'en va, il cite nulle part les supporters. Sur aucun endroit, il cite les supporters ou quoi que ce soit. Et depuis le début, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Demain, quand les supporters te supportent, ils se déplacent, ils font le déplacement. On les supporte malgré les défaites, on les supporte. Mais c'est normal que des fois, ils subissent nos colères. C'est tout à fait normal qu'ils subissent, que les joueurs subissent les colères des supporters. Et le travail des joueurs... Excuse-moi, Stéphane.
Ouais, attendez, pas tout en même temps. Oui,
le travail des joueurs qui sont payés, ils sont payés pour être dans ce club, la moindre des choses, ça serait de venir s'excuser auprès des supporters après des défaites, après des désillusions, après plusieurs choses. Voilà. Du coup, ils doivent continuer à aller voir les supporters. Ils sont payés pour ça. Voilà.
Ouais. Alors, Stéphane, pour que tout le monde ne parle pas en même temps, tu réponds. Après, il y aura Guy et puis Eric. Allez, Stéphane.
Le double affrontement du PSG contre le Bayern Munich, pour moi, il y a un seul, il y a pas un seul, mais en tout cas, il y a un responsable majeur, c'est Christophe Galtier, le responsable majeur du double affrontement entre les deux maintenant. Elle a dit que tu réagis juste uniquement déjà entre... on sait très bien le grand duel qu'il y a Ronaldo-Messi. On sait très bien que toi, c'est plus Ronaldo que Messi.
Mais là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Stéphane. Non,
on fait le bilan.
Cristiano Ronaldo, il est en Arabie Saoudite. Il joue même plus en Europe. Ça a vraiment rien à voir. Je te dis vraiment d'un point objectif.
Et après, on fait le bilan de la saison.
Qu'est-ce que je disais en début de saison? Je disais que Messi, là, est en bonne forme parce qu'il prépare sa Coupe du Monde. Et c'était exactement ça. Il préparait sa Coupe du Monde. Il a allé, il a fait une Coupe du Monde. Il a gagné la Coupe du Monde. Il revient avec le PSG. Il en a strictement rien à foutre. Il pisse à l'arrêt des supporters et du club, clairement. Et il l'a montré en allant en Arabie Saoudite. En allant en Arabie Saoudite sans prévenir ou quoi que ce soit. Il le montre. Il l'a montré dans tous ses aspects. Je ne vois pas comment tu peux encore le défendre, franchement.
Alors maintenant, Stéphane... Stéphane, attends. Pour que ce soit clair pour l'auditeur, chacun tour de rôle. Stéphane, ensuite, Eric et après Guy. Stéphane, tu réponds quoi?
Il a tout à fait raison dans ce qu'il dit, mais Neymar fait la même chose. Mais là, moi, je suis en train de parler de sportif.
Oui, on fait le bilan de la saison. Hein.
Je dis simplement que sur le bilan de la saison, tu as un Lionel Messi au Paris Saint-Germain cette saison. Et je pense, moi, qu'en tout cas, il met 16 buts. Je dis juste, il met 16 buts, il met 16 passes décisives. Il est de loin le moins bon contre le Bayern dans une disposition tactique qui est pourrie, qui de toute façon au Bayern, mais c'est honteux ce qu'a fait Galtier quand on reçoit le Bayern au Parc des Princes. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais à mon avis, il doit penser pareil. Tous derrière, en attendant le dernier quart d'heure, faire rentrer Mbappé qui court plus vite que les autres et qu'il aille mettre un but. C'est honteux de faire ça. Et je pense que n'importe quel joueur aurait plongé, sauf peut-être le Messi d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, aurait été capable de dribbler toute une équipe, de faire des exploits et tout, ou du Mbappé d'aujourd'hui, et te marquer un but incroyable. Donc ça, c'est ce que je dis. Effectivement, il n'a pas été bon, il s'est foutu de la gueule du monde, effectivement, comme Neymar peut le faire. Donc on veut foutre Neymar à la porte parce que Neymar, c'est comme il est. Comme il y a Ronaldinho, quand il était à l'époque de Ronaldinho, il allait en boîte de nuit tous les soirs, il arrivait limite bourré à l'entraînement. Donc Fernandez décidait de pas le faire jouer. On dirait pareil aujourd'hui là, tous les médias, c'est un scandale, c'est une honte, une pisse sur le club, il en a un à foutre. Aujourd'hui, c'est un des plus grands joueurs du club. Donc je trouve que c'est tout, c'est honteux. Maintenant, effectivement, je pense pas du tout que la saison elle se résume à ça. On l'a déjà tous dit. Oui. Je pense que Eric, il est d'accord et là-dessus, qui connaît bien le Paris Saint-Germain. C'est une gouvernance qui est complètement pourrie. On va prendre les meilleurs joueurs. On peut prendre les meilleurs joueurs d'Europe. Attendons de voir Bernardo Silva s'il vient au PSG et donnons-nous rendez-vous pour voir dans 6 mois quel est le niveau de jeu de Bernardo Silva. J'ai peur de dire, moi qui suis supporter du Paris Saint-Germain, j'ai très peur de dire que son niveau de jeu il soit à des kilomètres de ce qu'il est en train de montrer en ce moment avec Manchester City. J'ai très peur de ça. Donc voilà, maintenant après, on trouve que c'est d'une immaturité footballistique, supporteriste totale que de résoudre, de s'en prendre comme les supporters qui ont sifflé. Bêtement, je dis pas qu'il faut l'applaudir, hein, qu'il faut dire c'est énorme et tout. Je dis juste qu'il faut juste rien dire, machin et tout, en disant voilà, on a le meilleur joueur du monde. Ah, il n'est pas venu dire coucou à la fin du match. Alors que je le vois, moi, je pense qu'on doit être au-dessus de ça. Voilà. Maintenant, on ne sera jamais d'accord, on ne sera jamais. C'est toujours, on n'est pas d'accord et tout, on ne sera jamais d'accord. Parce que quelque part, il y a. Quoi que tu dises, moi, je suis quelqu'un d'honnête qui dit que qui admire Messi depuis 20 ans. Je pense pas que donc forcément, peut-être ça alterne un peu mon jugement. Je dis pas qu'il a été très bon. Je dis objectivement, au Real Madrid, à Madrid, au match retour, c'était un des 5 meilleurs Parisiens ou des moins mauvais. Bon, je rappelle quand même qu'à 20 minutes de la fin, on menait 1-0, ouais. On était qualifié, je crois, si je me souviens bien. Et c'était en partie aussi avec un bon match de Messi, un très bon match de Mbappé. Mais un très très mauvais match de d'autres joueurs sur le terrain.
Allez, on revient. Ouais, on revient sur cette saison, Eric, et après on va passer au reste du championnat. Parce que, voilà.
Je fais juste un point, mais je ne vais pas relancer le truc.
Non,
je voulais juste dire.
C'est pas le débat d'émission.
Non, mais juste le côté de ça, bien sûr. Juste un point, parce que c'est important. En fait, effectivement, moi je ne suis pas d'accord avec toi du tout, Stéphane. Je suis d'accord avec toi sur les insultes qui n'importe quel joueur, n'importe quel club, n'importe quel match au monde ne doivent pas exister, etc. Par contre, il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec toi. Et je pense qu'effectivement, ton jugement est altéré vis-à-vis du fait que tu aimes Messi. Moi, je suis pas un supporter de joueur, je suis un supporter de foot et je suis un supporter de mon club. Et le côté, c'est que de dire que les supporters n'ont pas le droit de siffler un joueur parce que c'est un dieu du foot, parce qu'il s'appelle Léo Messi, parce qu'il s'appellerait Cristiano Ronaldo, parce qu'il s'appellerait etc., ça, c'est quelque chose que pour moi, qui est inadmissible dans le football. C'est-à-dire qu'on a le droit de les applaudir, on a le droit de leur dire qu'ils sont extraordinaires. Par contre, quand ils font n'importe quoi, parce que il faut dire clair et net, je veux dire, quand Messi est arrivé, on a allumé la Tour Eiffel, on l'a accueilli comme si c'était un dieu, etc., et il a fait l'autiste toute la saison. C'est-à-dire qu'il est venu, il nous a pris pour le basic fit de sa saison de la Coupe du Monde, c'est réellement ça. C'est-à-dire qu'il cherchait une salle de sport, mais une grosse salle de sport, c'est-à-dire qu'il pouvait bien le préparer pour la Coupe du Monde. Donc il est pas venu parce qu'il avait envie de venir au Paris Saint-Germain. Et le côté, c'est que le problème, tu vois, Stéphane, c'est que tu vois une seule chose, tu vois que les résultats. Mais dans le foot, bien sûr qu'il a 16 buts et 16 passes décisives. Mais si le foot c'était que des statistiques, aujourd'hui, quand tu vas voir s'il signe, je sais pas s'il signera, mais s'il signe en Arabie Saoudite, il va peut-être mettre 50 passes et 50 buts. Ça voudra dire qu'il a été bon en Arabie Saoudite ? Pas du tout. Ça veut dire que le championnat, il vaut rien. C'est tout. Le côté, c'est que le foot, c'est de la passion. Et les supporters, ils n'ont pas besoin que de stats. Ils ont besoin d'être aimés. Ils ont besoin parce qu'ils payent des abonnements, parce qu'ils font des déplacements. Et moi, je te parle de sa première saison. Je te parle pas parce que les insultes, ils sont arrivés à partir de la deuxième saison, même s'ils sont inadmissibles. Mais un joueur, quel qu'il est, quel que soit le degré de football qu'il a et le dieu du football qu'il est, il doit donner des émotions à quelqu'un, il doit montrer qu'il a envie d'être là, surtout quand tu es payé 40 millions d'euros par an. Réellement, tu dois venir et tu dois montrer que tu as envie d'être là. Et les supporters, ils n'ont pas eu ça. Et réellement, voilà, c'est tout.
Moi, ouais, je dis juste, tu as raison, mais pour prendre juste un exemple.
Donc on a le droit de le siffler.
Pour un exemple très précis, encore une fois, moi j'essaye aussi quand même, je l'avoue, que j'adore Messi, donc par rapport aux autres, mais j'essaye d'être objectif quand même. Par exemple, je reprends notre ami Giroud, c'est pas quelqu'un du tout que je déteste, pourtant je pense que je pense de lui, mais dire et mettre toute la faute d'une élimination en huitième de finale contre le Bayern de Munich sur le dos de Messi.
Non, mais je te parle, ça, Stéphane, je te parle pas d'élimination, moi. Moi, je te parle. Il n'est pas sifflé pour l'élimination, Stéphane. Il est sifflé pour ces deux ans où il a été autiste. C'est Renman pendant deux ans. Il n'a aucune interaction avec le public. Et après, tu demandes au public de ne pas le siffler. C'est inadmissible. C'est juste inadmissible. C'est tout.
Ça, c'est effectivement une analyse que je respecte tout à fait, qui est une analyse de supporter. Voilà, supporter de foot. Voilà, c'est comme quand on voit les supporters. Je pense peut-être toi, en tout cas, par ce raisonnement-là, tu fais partie des gens qui défendent les supporters qui, à la fin d'un match perdu, quand tu es au bord de la relégation, vont discuter avec les capitaines, on les porte-voix, bougez-vous le cul et tout, et machin. Voilà, moi, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma
vie. C'est normal parce que quand ils réussissent, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane ?
Moi,
on les adule, on leur demande des autographes, on leur dit que c'est génial. Donc ça veut dire qu'on a le droit de faire l'un, mais on n'a pas le droit de leur dire vous bougez les fesses. Non, je suis désolé Stéphane, c'est pas possible. Tu dois avoir des droits et des devoirs dans le football. Les supporters et les joueurs de foot.
Alors, j'aimerais que... Ouais, vas-y, termine, après j'aimerais qu'on continue, hein, avec Guy aussi.
Non, moi je pense juste qu'il y a un côté un côté mental, et c'est même pas, je dis, moi je parle pas de droit ou pas de droit, je dis juste, je trouve ça un peu, je sais, je ne partage pas cette idée. J'ai eu des gros problèmes avec les supporters de Saint-Étienne que j'ai massacré dans des articles quand ils ont envahi le terrain et qu'ils ont fait, et les mecs me répondaient ça, ils me répondaient, mais on fait les déplacements toute l'année, on se crève le cul pour les supporter, machin et tout ça. Quand ils font des comportements lamentables, qu'ils perdent 4-0 chez nous, on a le droit d'envahir le terrain et de faire péter des fumigènes. Ok, à la fin, il y a 3 points en moins à tout. Ce n'est pas, et j'en ai parlé avec des anciens joueurs, notamment je peux citer un ami, Dominique Battenet. Par exemple, il y a plein d'anciens joueurs qui ne comprennent pas ça. Je pense que les supporters, ils sont là pour supporter, pour pleurer quand on perd, et puis crier de joie quand on gagne. Alors, ils ne sont pas là pour se mêler de la vie du club, ils ne sont pas là pour ça, c'est mon point de vue. Maintenant, je reconnais tout à fait. Moi, je parlais des côtés sportifs pour Messi. L'homme, en fait, je préférerais même Cristiano Ronaldo au niveau de l'être humain et tout, peut-être que Lionel Messi. Je parle juste du côté sportif.
D'accord.
Parce qu'il a fait son taf, il a une grosse boulette, c'est le Bayern, qui a mis toute la saison du PSG par terre. Et quand tu vois moi j'en veux terriblement, mais terriblement, à Christophe Galtier et je l'avais écrit, je l'avais prédit, quoi, de pas savoir gérer un tel match.
Alors moi je voudrais simplement, justement, ça tombe bien parce que c'est une belle liaison. Il y a eu un week-end complètement fou avec les supporters. Cette image du supporter, on parle pas que du Paris Saint-Germain, mais ce qui s'est passé à Bordeaux, ce qui s'est passé donc à Nîmes, et les bagarres entre Ajax et Marseille, c'est bien parce que on sert sur cette transition. Ton opinion là-dessus?
Ah oui, moi je...
Est-ce qu'il a un rôle trop important dans le club?
Non, moi j'ai horreur des dérives, voilà. Des dérives du public sur les matchs de foot, parce que un jour il y aura un pépin très très grave. On a oublié ce qui s'est passé au Heysel, on a oublié plein de trucs comme ça. À Lyon, il y a une dizaine d'années, il y a un fumigène qui a tué un gamin qui se trouvait dans la tribune d'en face. Le jour où on arrêtera carrément ces putains de fumigènes, là je serai content. Il y a 15 ans, Madame Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, a pendu un décret comme quoi l'utilisation des fumigènes dans les stades était strictement interdit et passible de peine de prison. Il n'y en a jamais eu autant depuis, jamais eu autant. Alors bon, qu'on ne vient pas me raconter ce qu'on veut, le jour où il y aura des morts dans un stade, on prendra peut-être des mesures. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'un supporter puisse descendre sur la pelouse, comme on a vu à Bordeaux, pour aller taper un joueur qui vient de marquer un but, c'est un scandale. Et que Bordeaux me raconte ce qu'ils veulent, il y a eu un défaut d'organisation patent, parce qu'on ne laisse pas descendre sur la pelouse un supporter pour aller frapper un joueur. Alors je sais pourquoi. Parce que si Bordeaux avait gagné ce match par 2 ou 3-0, comme j'avais besoin de faire un écart contre Metz, imaginons, Bordeaux monte en Ligue 1, c'est la fête, on ouvre les grilles, tout le monde sur la pelouse. Tout le monde sur la pelouse.
Comme ça s'est fait au Havre vendredi soir.
Voilà pourquoi. Voilà. Il n'y a pas de sécurité. Sinon, ce mec n'aurait jamais dû descendre sur la pelouse.
Mais moi, je suis prêt à parier, je suis prêt à parier que Eric, si on va un peu plus en avant dans ton raisonnement, tu vas avoir le même raisonnement qu'une certaine partie des ultras bordelais, qu'on dit qu'ils condamnent, qu'ils dénoncent, qu'il ne faut pas le faire, mais on comprend quand même.
Pas du tout.
Parce qu'il y a 4 matchs, on a les montées.
Pas du tout.
Ils ont fait n'importe quoi. Il y en a le ras-le-bol.
Pas du tout, Stéphane. Non, pas du tout, Stéphane, parce que tu confonds ce que j'ai dit. Moi, je te parle de sifflets, et je t'ai mis d'un côté les sifflets, de l'autre côté les insultes. Et faut être débile profond. Faut vraiment être débile profond pour faire ce qu'a fait le gars des ultras de Bordeaux. Parce que tu pénalises ton club. Siffler un joueur et rentrer sur un terrain et pousser, voire mettre une gifle à un joueur parce qu'il a marqué un but. Excuse-moi, Stéphane, mais il y a même pas une rivière. Il y a un océan. Ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de sifflets.
Il y a un côté. Non, mais je suis d'accord avec
voilà,
toi.
Voilà, ça n'a rien à voir. Il faut être débile profond. Et je voudrais juste. Attends, Stéphane, juste un truc. Je voudrais dire quelque chose parce que, toujours dans les attitudes aussi des supporters, on dit toujours oui, c'est des jeunes, nanani, nanana, les jeunes de cité, de ci, de ça, etc. Je voudrais dire que la personne qui est descendue et qui a été maître,
pas un jeune,
il est chef d'entreprise.
Ouais.
Cette personne est chef d'entreprise.
Ça, c'est bien.
Il est cinquantenaire.
Ça, c'est bien.
Il a un restaurant, je dirais pas où,
oh là là.
Et il est numéro 2 des ultras, etc.
Oh là là là.
Et ce n'est pas un jeune de 20 ans, etc., etc. Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi avec ça.
Ouais,
quand on est débile profond dans sa tête, non mais Stéphane, quand on est débile profond dans sa tête, on est débile profond dans sa tête. Ouais, qu'on ait 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans.
Voilà. Tu peux dire où il a son restaurant parce que c'est un truc incroyable. C'est incroyable, c'est qu'il a son restaurant à Annecy. Et le mec, ce qu'il a fait là, va envoyer Annecy en national.
Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais faut être complètement débile. Je veux dire, moi j'en ai vu des défaites avec Paris. Bien sûr que j'ai sifflé. Bien sûr que peut-être j'ai cassé peut-être une phalange. Peut-être que au bout d'un moment, peut-être que j'ai cassé une assiette. Peut-être que j'ai cassé des trucs. Mais jamais j'ai frappé un joueur. Jamais j'ai déjà insulté. C'est même pas. Je veux dire, le côté au bout d'un moment, il y a un changement entre les deux.
Voilà. Le truc intérieur qui est pour, en tout cas qui est pour moi le même, c'est cette espèce de haine ou de retenue ou je sais pas de nerfs envers des gens parce qu'on estime qu'ils font pas ce qu'ils devraient faire. Et je pense qu'un sifflet pour Messi, c'est peut-être la première étape. Le enculé Marquinhos ou un autre, hein, ou Ramos, c'est une deuxième étape. Et puis après, on monte comme ça. Et je l'ai vu, moi, je parle d'autre chose que Bordeaux. Je l'ai vu avec Saint-Etienne. Pour envahir le terrain, bah, tu as 80% des supporters de Saint-Etienne, des ultras et tout, avec qui j'étais en lien et tout, qui m'ont insulté et tout, parce que je les ai rabaissés en leur disant que c'était inadmissible ce qu'ils avaient fait. Dans le match, notamment contre Auxerre, bah les mecs, si, ils perdent la séance de tir au but, ils vont en Ligue 2, donc c'est normal. Ils envahissent le terrain, ils mettent des fumigènes, ils foutent le bordel, ils sont foutus de notre gueule.
Ouais, mais Stéphane,
c'est un truc de passion.
Stéphane, voilà. Juste une chose, c'est que le lien, il est pareil que toi dans ta voiture. C'est-à-dire que si tu t'engueules avec un mec au volant, tu vas gueuler, tu vas ci, tu vas ça. C'est pour ça que tu vas descendre avec un couteau et que tu vas le planter. Non, c'est une question dans la tête des personnes. Il y a des personnes qui ont un problème dans leur tête. C'est pas une question de supporters, c'est pas une question de tout ça. Je veux dire, au bout d'un moment, moi, je me suis déjà engueulé en voiture. Je suis pas sorti avec un couteau pour et toutes les personnes. Si toutes les personnes qui s'engueulaient en voiture sortaient pour aller planter la personne d'en face, réellement, ça pue beaucoup.
Oui. Donc, bah, t'as raison, mais il y a un rapport frustration.
Oui,
mais notre frustration. Alors le fou qui descendrait de la voiture, il va aller et le mec qui reste dans sa voiture tranquillement parce qu'il veut pas de bagarre, même si le mec en face il fait deux têtes de moins que lui et qu'il de toute façon je veux pas de bagarre, bah lui effectivement il ira jamais sur le terrain.
Voilà.
Mais il y a une façon de frustration.
Bon Stéphane, on va écouter une pause musicale, ensuite on va reprendre le jeu, hein, même si je pense que c'est donc un débat de société, hein, ça dépasse carrément le cadre du foot, mais tiens, ça serait intéressant un jour de faire une émission sur le comportement des supporters. Allez, tiens, on va écouter Tina Turner, The Best, hein. Elle est décédée, c'était normal que donc on lui rende hommage. Et ensuite, on repart pour le bilan de ce championnat.
You come to me.
RIFM.
Alors, émission qu'on pourra naturellement réécouter très rapidement en podcast sur donc le bilan de ces championnats. Alors, on avait parlé du Paris Saint-Germain. On va quand même dire aussi que pour les autres résultats de cette 38e et dernière journée, les principaux, hein, Lens est allé gagner Auxerre 3-1. Défaite, on en reparlera aussi, donc de Marseille à Ajaccio 1-0. Victoire de Rennes à Brest 2-1. De Toulouse à Monaco 2-1. 3 et Lille, match nul, 1 partout. Et Nantes qui se sauve en battant Angers 1-0. Donc, on a fait le bilan. Hein. Premier, Paris Saint-Germain, 85 points avec 7 défaites. Deuxième, Lens, 84. Ces deux équipes joueront la Ligue des Champions. On est d'accord, messieurs, que la bonne révélation de la saison, c'est Lens quand même.
Bien sûr.
Sacrée belle équipe. Hein.
Rien à dire. Rien à dire. Hein, c'est déjà, moi, je voudrais. Je vais te passer la parole. Ouais. Moi, je voudrais tirer un gros chapeau à Frank Hayes et au boulot qu'il fait depuis 2-3 saisons. Mmh. C'est un boulot colossal. Vraiment avec de la tactique, avec du jeu, avec vraiment plein de choses, et réellement, après, les joueurs sont aussi à féliciter, mais Francaise, moi, ça me plaît vraiment.
Alors, on en parlait avec Guy hors antenne, on a eu quand même cette saison l'arrivée d'entraîneurs qui n'étaient pas connus du grand public. On a eu le cas à Nice, on a eu le cas à Reims. Ça, c'est une bonne bons points de la saison.
Il y a eu l'éclosion de jeunes entraîneurs
comme Hayes, tout ça. Ouais.
Oui, bien sûr, surtout moi, celui qui m'a épaté, c'est l'Écossais de... Enfin, l'Écossais belge.
Ouais,
français. Il a trois nationalités.
De Reims.
De Reims.
Parce qu'il a fait un travail colossal avec ce club, quoi. Mmh. Mais bon.
Alors,
c'est très bien qu'il y ait des jeunes comme ça qui sortent un peu du lot, parce que...
Alors... Ça, ouais, troisième, Marseille. Alors, 73 points, c'est quand même la déception, Marseille. Éliminé au premier tour de Ligue des Champions. Donc, en Coupe de France, on les donnait favoris. Ils se font sortir par Annecy. Ils jouaient quand même la deuxième place. Et puis, finalement, ils vont passer par un tour préliminaire. Et ils ne sont pas certains de pouvoir aller en Coupe d'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, moi, je suis content.
Oui, non mais dans le football.
Philippe, franchement, Philippe, t'allais pas poser. Non, mais dans le football.
Non, mais on
parle
du foot. Là.
Non, mais même dans le foot. Le côté, c'est que je vais te dire. Non, mais
hauteur,
même si je retire, voilà. Même si je prends
c'est
de la hauteur.
C'est pas un bilan qui.
C'était une private joke. Ouais. Mais le côté Philippe.
Je te connais.
Dès le départ, tu peux pas te dire que ça va marcher. Je vais te dire pourquoi tu peux pas te dire que ça va marcher. Tu fais venir un entraîneur qui est un entraîneur qui va mettre de la rigueur.
Oui, ça dure pas longtemps, ouais.
De l'intensité, oui, de travail pas, physique,
ça dure
pas de ballon,
saison, hein,
de
sûr,
physique.
Bien sûr.
Non, mais attends, mais ramener à un club du sud de la France,
oui.
Les joueurs français qui vont à l'étranger, ouais. La première chose qu'ils disent quand ils sont à l'étranger et qu'on les interviewe, ils disent, oh, on n'a jamais autant travaillé à l'étranger. Donc ça veut dire
c'est
que
vrai.
Déjà,
c'est vrai qu'ils disent
pas au niveau ballon, hein, mais au niveau physique.
Ouais, physique. Ouais. Physique.
Et donc tu vas chercher un technicien qui fait tout sur le physique quasiment. Mm-hmm. Il y a un peu de ballon, il y a un peu de tactique, etc. Ouais. Mais que sur le physique. Tu vas le chercher déjà. Tu sais, tu sais que c'est un entraîneur qui va y avoir des clashs, etc., etc. Tu sais que dans le vestiaire déjà avant à Marseille c'était déjà compliqué.
Ouais, c'est donc, toujours compliqué.
Et donc
hein.
Qu'est-ce qui s'est passé? Payet dès le départ de la saison. Mm-hmm. Ensuite t'avances, tu fais venir des joueurs. Je suppose que l'entraîneur a été d'accord pour les faire venir, parce que tu les fais venir au mercato d'hiver, qui clash avec lui très très vite et qui joue pas. Donc Luis Suarez, les trucs, etc., etc. Le Colombien, enfin, qui est arrivé de nulle part, etc. Le faux Luis Suarez. Et on continue encore la saison. Le joueur qui était le joueur de la saison d'avant, c'est-à-dire à part Payet, phare de l'équipe, clash aussi Guendouzi avec lui, il va se retrouver sur le banc. Donc tu sais que la mayonnaise, au bout d'un moment, elle va pas prendre. C'est-à-dire qu'elle prend au début. Mais au bout d'un moment, elle va s'arrêter très très vite. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je pense que le lien entraîneur et équipe n'était pas voué à faire que ça aille sur la durée. Oui, je pense que c'est quelqu'un que tu peux faire venir au bout d'un moment pour faire des résultats sur 8-10 matchs. C'est un très bon entraîneur, mais je pense pas pour Marseille.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il reste pas. Oui, Guy, Eladji et après Stéphane au téléphone. Vas-y Guy.
Non, je disais que dès l'instant où Marseille était certains qui n'iraient pas directement en phase de groupe.
Oui, mais c'est un échec pour eux.
Il y a eu une décompression également, parce que bon, il leur restait le barrage. Bon, une fois qu'ils l'avaient, ils l'avaient. Donc ils ont laissé pisser le mérite.
Oui, parce qu'ils ont perdu leurs deux derniers matchs quand même. Hein, donc,
ben oui.
Elle a dit.
Ils ont perdu de façon. Ils ont perdu de façon très. Je ne sais même pas comment. De façon très médiocre. Parce qu'ils ont perdu contre une équipe qui n'avait pas marqué de but depuis 7 matchs d'affilée contre Ajaccio.
Ils ont perdu à domicile
contre Brest aussi. Façon lamentable aussi. Franchement, voilà, Igor Tudor, c'est un bon coach, mais comme on l'a dit, c'est pas un coach pour Marseille. Non, c'est pas un coach pour Marseille. Et lui-même l'a dit, hein, à la fin de saison, il a dit, voilà, venir entraîner à Marseille, c'est comme entraîner 2-3 saisons autre part.
Ouais.
Voilà, il l'a dit clairement. Et franchement, là, Marseille, tu les vois jouer. Voilà, ils jouent un beau jeu au début, les 50-60 premières minutes.
Après, ça rate beaucoup d'occasions aussi. Hein.
Ils ratent beaucoup d'occasions, parce que voilà, mais à la fin, après, ils sont carbonisés. Carbonisés, ils n'arrivent plus à tenir. Ils sont là, ils n'arrivent plus à tenir, ils n'ont aucune lucidité. Et à ce moment-là, quand ils jouent contre des équipes un peu contrairement comme Lens, par exemple, ça ne peut pas tenir. Ça peut pas tenir. Lens les ont écrasés parce qu'ils sont vraiment au-dessus. Ils leur ont montré le football, clairement. Et franchement, ça a été un plaisir de voir Lens jouer toute cette saison. Ça a été un plaisir de les voir. Ouais. Et franchement, voilà, moi, Franck Hez, Openda, Luis Openda, qui ne tirait même pas les pénaltys, qui a mis 18-19 buts de la saison, c'est extraordinaire. Franchement, je me suis régalé. Je regardais les matchs de Lens, je me régalais vraiment.
Stéphane, la saison n'est pas à la hauteur des ambitions marseillaises.
Ah non, mais c'est clair. Mais moi, j'ai plus l'avis de Eladji, en tout cas pas du tout celle d'Eric sur le truc. Parce que moi, ce que je pense surtout, c'est ça n'a rien à voir avec le sud de la France, pas le sud de la France. C'est que Igor Tudor, pour moi, n'est pas un bon coach. C'est-à-dire que c'est pas un coach, en tout cas, pour une équipe. Parce que qui est-ce qui a quand même saboté tout lui-même, qui s'est savonné la planche? C'est pas Payet, parce que Payet, c'est depuis le début. C'est depuis le début. Et quand on parlait de l'Olympique de Marseille, qui pouvait encore être champion de France, là, avant de recevoir le PSG, je crois qu'ils étaient à 6 points avant de recevoir le PSG, ils pouvaient être champion de France. Payet, il était déjà hors circuit depuis longtemps. Bon, effectivement, avant même que la saison commence, il y a deux joueurs qui sont allés voir Longoria pour lui demander de virer Tudor, pour lui dire de pas continuer avec Tudor. Donc ça, il l'a fait venir. Le problème, c'est que lui, comme d'ailleurs moi, je pense quand je dis ça, hein, je dis pareil de Galtier, par exemple. Hein, et c'est qu'il n'a pas le niveau, quoi. C'est avoir un niveau, c'est avoir cette intelligence, savoir que tu fais quelque chose que t'imposes un pressing, un football quasiment total à tes joueurs, donc savoir faire tourner plus souvent que de mettre toujours les mêmes joueurs, de pas écarter forcément. Je parle pas de Payet parce que tout le monde voyait qu'il avait plus niveau, mais je parle d'un Guendouzi qui n'est pas du tout un de mes joueurs préférés, mais en tout cas d'écarter quasiment quelqu'un comme ça sur les 10 derniers matchs, plein de choses comme ça. Il y a plein de décisions qui sont très importantes. Et je reviendrai autre chose sur aussi l'analyse de Lens. Effectivement, le travail de Franquez, il est énormissime, mais quand tu fais, et si tu étudies un petit peu les trois dernières saisons de Lens, où Lens est aussi très 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 fort, c'est aussi dans leur système de recrutement et dans les joueurs qui recrutent et les joueurs qui viennent. Quand tu regardes tous les joueurs qui sont responsables de ce qui arrive, un Kevin Danso par exemple, qui pour moi est un des, on a beaucoup parlé de Lacazette ou ça, mais qui a un scandale qu'il n'ait pas été parmi les cinq finalistes du trophée des UNFP, là, des meilleurs joueurs de la saison. Danso, c'est le meilleur défenseur de Ligue 1, je pense. Ça a été le meilleur défenseur de Ligue 1. Ces mecs-là, ils ont été le chercher. Je suis peut-être nul, mais je ne connaissais quasiment pas avant qu'il arrive à Lens. Ce gars-là, et t'as plein de joueurs comme ça. Openda, on connaissait un peu plus, mais par contre, Openda, il a été chercher un joueur. Ils ont été chercher un joueur comme ça. Bon, ils ont mis un petit peu de sous. Et ils ont eu, à l'époque de Seko Fofana, on était tout le monde était en admiration quand ils avaient payé 8 millions d'euros à l'Udinese pour récupérer ça. Donc, il y a tout ça qui compte. Et dernière petite chose, je veux dire, après, on parlait des classements, c'était prévu pour ma chronique, mais je vous le donne quand même. Il y a un point, effectivement, entre le PSG et Lens. Mais au lieu de s'intéresser à ça, je pense que ce qu'on devrait plutôt s'intéresser, c'est de dire que les trois plus gros clubs du championnat de France derrière le PSG, qui est au-dessus effectivement, qui devrait avoir peut-être 15 points d'avance, c'est quand même l'OM, Monaco et Lyon. Et bien l'OM, ils finissent à 11 points de Lens.
Oui, c'est ce qu'on va
Monaco dire. Finit à 19 points de Lens. Oui, oui. et Monaco et Lyon finit à 22 oui, points de Lens.
C'est ce qu'on disait avec Guy hors antenne, et là, on allait en parler dans la suite donc, de cette analyse. C'est la grosse déception. Alors, Rennes 4e, 68 points. 5e, Lille, 67 points. J'ai envie de dire que Rennes s'est déshabitué de la Coupe d'Europe. Hein, donc,
c'est mérité, surtout.
C'est une belle, ouais, c'est une belle saison et c'est mérité. C'est une équipe qui, depuis quelques années, est très régulière maintenant.
Même pas que sur Rennes, pour l'équipe même. Moi, je trouve que c'est mérité pour Bruno Genesio.
Oui,
parce que Bruno Genesio, c'est quelqu'un.
Eric, qu'est-ce que tu penses du comportement des supporters lyonnais avec Bruno Genesio? Ils l'ont quasiment.
C'est inadmissible.
C'est inadmissible.
Ils l'ont pas. Pourtant, ils n'ont pas insulté sa mère, quoi.
Non.
À part quelques
quelques dérives, mais
ils ont été un peu. Ils le détestent. Va parler de lui sur un truc.
Mais je
sais. Ils le détestent.
Mais je sais.
Voilà.
Mais c'est pas grave. En tout cas, il.
C'est. Et c'est Arène, pour ça que
fait du bon
très
travail.
Bien,
et,
il fait du très
c'est
bon.
C'est un beau désaveu pour les.
Et il le mérite.
Pour ceux qui le détestent.
Il le mérite. C'est un très bon entraîneur.
Bon, Guy, Rennes 4e, Lille 5e, ils sont à leur place. Donc Rennes qui jouera la Ligue Europa avec Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. Et puis Lille qui jouera la Ligue Europa conférence.
Attendez, parce que Toulouse. Toulouse, il y a un petit problème quand même.
Ah.
Parce que ça dépendrait de la place que va faire Milan AC.
Oh là là.
Ils sont en Ligue des Champions.
Ah, alors s'ils sont en Ligue
des Champions. Mais même s'ils sont en Ligue des Champions, ils disaient que le problème se pose toujours, mais ils vont trouver une petite magouille pour que le propriétaire passe minoritairement sur un petit truc.
Ils l'ont déjà fait, je pense. Ça a déjà été fait entre Leipzig et.
Salzbourg.
Oui, c'est ça. Salzbourg, merci. Les deux clubs ont le même actionnaire et en fait, ils ont juste changé.
Il suffit
de ne pas être majoritaire. Les deux étaient majoritaires dans les deux clubs. Exact. Ils ont descendu le pourcentage à en dessous de 49 et les deux ont joué en Coupe d'Europe.
Alors, comme on l'a dit, grosse déception, c'est Monaco, 6e avec 65 points et 7e Lyon, 62 points. Là, c'est vraiment les deux clubs la grosse déception. Monaco qui a complètement loupé sa fin de saison et puis Lyon qui a.
Monaco. Monaco, c'est bien fait.
Non, mais peu importe.
Je dis pas que c'est bien fait. Mais le côté pourquoi, Philippe? C'est-à-dire que dans quelle vie de football, quand t'as un QI football assez développé, dans quel QI de football tu fais partir Kovacs, qui est en train de monter quelque chose avec le club et qui a des résultats qui sont. Pas fou, hein. C'est-à-dire, il est pas, quand il est licencié, il n'est pas 14e ou 16e. Hein. Il doit être, je sais pas, si je me trompe, il doit être entre 3 ou 4 ou quelque chose comme ça.
Il était dans le top 4.
Ouais, ou dans
le top
4.
Il était 3e, 4e.
Et le gars, il est en train de monter quelque chose. C'est-à-dire que petit à petit,
on
fait venir un Philippe Clément que personne ne connaît. Moi, après, j'ai rien contre lui, hein. J'ai rien contre Philippe Clément. Mais derrière, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que derrière, il a le meilleur buteur de son club. Et il le fait sortir à la 45e, à la mi-temps. Il le fait pas rentrer, il est pas titu, etc. Mais Ben Yedder, il a de quoi de rendre fou. Moi, je tire mon chapeau à Ben Yedder qui n'importe quel autre attaquant aurait pété un plomb. Il a rien dit pour le club et pour les supporters de toute la saison. Et voilà, je trouve ça fabuleux parce que le gars, il met but sur but. Réellement, tu peux pas le gérer comme ça, c'est impossible.
Alors, Stéphane, grosse déception Monaco.
Ouais, grosse déception, mais désolé. Ce soir, Eric, qui est mon ami et que je respecte beaucoup, on n'est pas
moi aussi.
D'accord.
C'est ça le foot. Hein.
Ben Yedder qui a fait quand même virer Kovacs, qui est un des joueurs de l'AS Monaco qui est à l'origine du départ de Kovacs. Et on n'est pas dans le club, effectivement. On n'est pas au sein du club. Tu dis qu'il a rien dit. Il a raté des réunions où il n'est pas venu parce qu'il était remplaçant. Il a boudé parce que si et tout. Je ne suis pas persuadé pour ma part qu'il ait eu un comportement exemplaire. Maintenant, effectivement, Clément, c'est bien fait pour eux. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit en général. Ce que vous avez dit sur Monaco, c'est vrai que c'est une énorme. C'est incroyable.
Quoi, excuse-moi Stéphane de te couper. Franchement, le problème, moi, je pense à Monaco. En tout cas, Ben Yedder, moi, j'ai compris dans le sens dans lequel Eric, il dit, il n'a pas été... Voilà, oui, il va... C'est normal, j'ai envie de te dire, il loupe des réunions parce qu'il n'est pas titulaire et parce qu'il met je ne sais pas combien de buts. Il faisait partie du classement des trois meilleurs buteurs de Ligue 1, quand même, tu vois. Il se bat pour être l'un des meilleurs buteurs.
Dans la liste de l'équipe de France.
Mais du coup, il n'est pas titulaire. C'est normal qu'à des endroits, il merde un peu, entre guillemets. Mais voilà, ça sera à un autre joueur, on l'aurait entendu parler dans les journaux, il aurait fait la une des journaux et Ben Yedder ne l'a pas fait. Voilà, et Ben Yedder ne l'a pas fait, c'est pour ça qu'on dit il s'est quand même assez canalisé, assez bien canalisé et assez bien comporté quand même. Après, moi je pense que Monaco, c'est une grosse désillusion, mais le problème de Monaco, c'est la défense. Tu regardes la défense, dans les 5 derniers du championnat de Ligue 1, il y en a qui ont encaissé moins de buts que Monaco.
Non, mais il n'y a pas que la défense, c'est surtout le gardien.
Oui, oui, non, le gardien, c'est catastrophique.
Ça fait 2 ans qu'on nous vend que c'est le remplaçant de Neuer. Alors que, à mon avis, il est à peine remplaçant de Bernard Denis.
Alors qu'il avait le compte, qui était très bon.
Oui, bien sûr.
Aussi. Alors, autre grosse déception, c'est Lyon, 7e, 62 points. On en a régulièrement parlé. Hein. Ça a été du moins bon, Guy. Hein.
Je sais bien, mais ouais. Lyon ne devrait pas, avec l'équipe qu'ils avaient, ne devrait pas être à cette place-là. Mmh. Moi, ce que je pense, Lyon, c'est un petit peu le reflet des clubs français actuels.
Oui.
C'est qu'il y a une certaine instabilité au niveau des clubs, y compris des grands clubs français, une grosse instabilité. Ce qui veut dire, vous changez d'entraîneur tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois. Marseille, il y a eu Bielsa, Sampaoli, je ne sais pas qui encore. Derrière, il y a ce Tudor. Lyon, ils ont fait venir Juninho, qui a été une idole au club. Et d'un seul coup, Juninho n'est plus bon à rien. Combien d'entraîneurs sont venus à Lyon ? En 2 ans, 3. Bon, au PSG, non, j'en parle pas parce que...
Oui, non, mais bon.
Bon, les entraîneurs défilent au PSG également. Bon, il y a Marseille, il y a PSG, il y a Lyon, il y a Monaco. Ça bouge sans arrêt. Comment voulez-vous qu'il y ait une stabilité et des résultats qui continuent à être pérennisés quand ça bouge sans arrêt? C'est pas possible. Bon, alors... J'ai entendu une phrase au trophée UNFP qui me font craindre le pire en ce qui concerne le Racing Club de Lens, qui est l'équipe qui est la révélation de la saison, qui va disputer une Ligue des Champions l'année prochaine, qui a un public et un stade extraordinaire, qui a un entraîneur qui est capable de faire des miracles.
On ne sait pas s'il va rester ou pas.
Et d'ailleurs. Qui a annoncé quelques petites phrases qui me font craindre le pire.
Il fait monter les enchères. Quoi.
Oui.
Voilà,
il va rester,
où il veut faire monter les enchères.
Moi, je pense...
Voilà, le club est en train de changer de statut. Mmh. Est-ce que ça veut dire que derrière, on n'a pas donné d'assurance suffisante à Franck Haez, pour renforcer le club comme il le voudrait en Ligue des Champions? 2, est-ce que lui-même n'a pas obtenu ce qu'il aurait eu envie d'obtenir avec la saison qu'il vient de faire? Ça m'inquiète un peu.
Voilà. Excuse-moi, Guy.
Et après, on enchaîne, je voulais revenir dessus.
Voilà, moi, Franck Haez, je le comprends tout à fait dans le sens où il fait monter, entre guillemets, un peu les enchères. Moi, je pense plus que, voilà, vous avez vu la fin de saison, on a vu maintenant les prix de chaque joueur. Luis Openda, Seko Fofana, Danso, on voit le prix de tous les joueurs. En gros, c'est comme si c'était mis à vendre, quoi. Et du coup, j'espère qu'ils vont pas céder à la tentation et vendre tous leurs joueurs. Parce que s'ils vendent leurs meilleurs joueurs et ils ne recrutent pas derrière, en tout cas, pas des bons joueurs derrière... Et je pense pas que Lens vont investir des joueurs à 30 millions d'euros ou 20 millions, etc. Non, ça m'étonnerait très fortement. Et j'ai peur qu'ils gâchent leur prochaine saison et que ça fasse la même chose que Nantes, quoi. Parce que Nantes, ils ont bousillé leur saison et là, ils sont maintenus miraculeusement, on va dire, entre guillemets, à la fin de saison. Mais ils ont fait quand même une saison catastrophique, quoi. Et j'espère que Lens ne vont pas faire de même.
Ouais, ils ont refusé une offre de Leipzig. Pour Openda déjà.
Oui, non, mais de 30 millions, parce qu'elle était que de 30 millions. Ils ont dit que c'est dérisoire, c'est pour l'augmenter.
Ouais,
à 50 millions, crois-moi, ils le vendent.
Ouais, et le joueur veut y aller. Hein. Openda,
On en parlera des transferts dans les prochaines semaines. Hein. On aura l'occasion largement de parler des transferts dans les prochaines semaines. Je vais redonner donc la suite du classement. 8e, Clermont, 59. 9e, Nice, 58 points. 10e, Lorient, 55 points. 11e, Reims, 51 points. 12e, Montpellier, donc avec. donc Montpellier 12e également qui doit avoir 50 points, 13e Toulouse 48 points, 14e Brest 44, 15e Strasbourg 40, 16e Nantes 36. Ces équipes donc restent en Ligue 1 et descendent donc Auxerre 17e avec 35 points, 18e Ajaccio 26 points, pardon, non, oui, 20,
c'est ça.
Pardon, c'est ça, ouais, ouais, 18e Ajaccio 26 points, c'était l'écart qu'il y avait, 19e 3, 24 points et 20e Angers 18 points. Parmi les équipes qu'on vient de citer, Guy, il y a des satisfactions dans la saison. Clermont a fait sa saison.
Toulouse.
Oui, ils ont gagné la Coupe de France.
La Coupe de France,
ouais.
Qui a pratiqué un jeu qui n'était pas vilain.
Oui.
Bon, Lorient en début de saison. Après, ça s'est un petit peu tassé. Mmh. Et l'équipe qui me surprend par son jeu, c'est Clermont.
Oui.
Parce que c'est une équipe qui joue bien au football.
Il n'y a pas beaucoup de moyens. Qui
pas 8e. Beaucoup de moyens et joue bien au football. Ils sont 8e, c'est pas par hasard. Hein.
Mm-hmm. Ouais. Stéphane, parmi les équipes qu'on vient de citer, là, il y a des équipes.
Oui. La même que Guy, si ce n'est que ce qu'il n'a pas précisé quand même, Guy, ce qu'on peut préciser quand même, c'est que Lorient se fait quand même piller de ses meilleurs joueurs à la trêve. Hein,
oui, c'est pour ça qu'ils avaient fait un bon début de saison et ça a été un petit peu compliqué après.
C'est vrai.
Ils ont donc c'est ce qui a été le truc. Moi, je suis pas tout à l'heure, vous en parlez, je reviens un peu là-dessus, les équipes en général. Par exemple, on en parlait tout à l'heure. Moi, personnellement, je ne suis pas du tout un fan de Will Steele, par exemple, l'entraîneur de Reims. Je pense, j'ai presque envie de dire que c'est peut-être un phénomène éphémère, je sais pas, je sens pas trop quoi. C'est-à-dire que bon, ils dixième, ils avaient à ce moment-là, on peut aussi encenser Derzakalan. Par contre, le petit Lebris là de Lorient, là, ça, je pense que c'est un coach dont on devrait parler, qui a une façon de voir le foot, une façon de vivre le foot et tout, qui est incroyable. Et puis le mec, on lui a enlevé quand même ses meilleurs deux ou trois de ses meilleurs joueurs à la trêve. Et puis il a remis le truc, il est quand même dixième. Bon, il aurait pu terminer encore plus loin derrière. Je pense que c'est bravo. Et puis bien sûr, alors Clermont, alors là on va dans le sens contraire de tout ce quoi, dans le sens de tout ce qu'on disait. Ça fait combien de temps qu'il est là, Gastien, à Clermont? Il les a fait monter, il leur fait des trucs incroyables et tout. Et puis lui, c'est vrai que c'est énorme. Mais vous le mettez dans un autre club demain, peut-être qu'il fera rien. Puis très étonné, moi, très étonné par le... J'aurais jamais parié, il y a encore trois semaines, un mois ou deux mois même, que Auxerre finisse par défendre. Quoi.
Oui.
Félicier,
oui,
est un très bon entraîneur et je suis vraiment... J'étais très surpris de voir, par exemple, Lens gagner à Auxerre. Ce qui est quand même d'ailleurs un peu honteux pour Auxerre, quand tu vois que les autres, ils sont venus quand même après avoir fait une semaine de fête complète, je pense. Donc c'est quand même un peu bizarre, je trouve que c'est une contre-performance quand même de pas arriver à faire un résultat contre Auxerre, mais eux là c'est ce qui m'a le plus étonné. Maintenant, Nantes, je pense pas que Nantes ait perdu tous ses joueurs. Là, quelqu'un a dit ils ont perdu beaucoup de joueurs l'année dernière, mais je pense pas que à part, il y a Colomouani qui est parti gratuitement parce qu'il était en fin de contrat. Par contre, donc, ils ne pouvaient pas le garder. Donc, des joueurs que Nantes a décidé délibérément de vendre, je sais qu'ils ont bloqué Blas et Lafont.
Ouais, il va partir, là.
Ils ne sont pas partis, qui maintenant vont partir. Mais en tout cas, Blas, c'est sûr. Lafont, je ne suis pas certain qu'il arrive à trouver un club, Lafont, à la hauteur de ses ambitions. Mais bon, en tout cas, ils ont gardé sinon tout le monde. Donc, c'était annoncé. Hein. Angers, c'était annoncé depuis le début.
Oui, malheureusement, oui.
D'aller Angers, 3. Les Anglais, je pense que c'est limite s'ils ne préfèrent pas que le club soit en Ligue 2. Ils ont mis un entraîneur, n'importe qui au monde, n'importe quel autre entraîneur serait fait virer. Le mec, il est venu, il a gagné quoi? Il avait marqué 4 points, je crois, ou 5 points en 6 mois en Ligue 1. C'est fou, quoi. Je veux dire, ça défie toute statistique, toute logique de foot, comme on dit. Sinon voilà, quoi. Bah, grosse déception, Lyon, bien sûr. Olas qui a acclamé, qui a été un énorme président, mais qui a quand même foiré complètement ses deux dernières saisons, voire trois dernières saisons à Lyon, quoi. Toutes ses décisions et tout, quoi. Qui a tout foiré, mais par contre, effectivement, pour moi, en tout cas, ça reste le plus grand président de l'histoire du football français. Mais ça n'empêche pas qu'il a tout foiré au cours de ces trois dernières années.
Voilà, alors donc Mbappé, meilleur buteur, on l'a dit, avec 29 buts. Hein. Je crois 29. C'est la 29, c'est ça. C'est la quatrième année qu'il veut rejoindre Papin qui a fait 5 ans.
C'est la cinquième année.
C'est la cinquième. C'est sûr, vous êtes sûr?
Oui.
Vous êtes sûr, cinquième année?
C'est la cinquième.
Il semblait que Papin avait fait 5 et qu'Mbappé voulait justement le rejoindre.
J'ai fait un article sur lui aujourd'hui.
D'accord.
Et j'ai 5, je crois, depuis 2019, 20, 21, 22, 23. Ouais, voilà. Ouais, 19, 20, 21, d'accord. 22, 23.
5 fois. Donc, Messi, on l'a dit, meilleur passeur avec 7 buts. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on a marqué 1067 buts. Comme l'année dernière,
exactement le même total.
Ça fait une moyenne de 2,81.
C'est incroyable, ouais. D'ailleurs, qu'on marque le même nombre de buts deux années de suite. Quoi.
Ouais. Il y a eu un tout petit peu plus de buts qu'en 2021, où il y a eu 1049 buts. On était à 2,76. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, les cartons jaunes, 1223 cette année, et 97 cartons rouges. Il y en avait eu 1440 l'année dernière, donc beaucoup plus de cartons jaunes. Et il y a eu donc 102 cartons rouges. Il y en avait aussi davantage. Ouais. Voilà. Sinon, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce championnat. Juste la Ligue 2 maintenant, parce que le temps nous presse. Hein. La Ligue 2, on va très brièvement donc rappeler les résultats de la 37e journée. Bastia Le Havre 1 partout, Annecy qui bat Bordeaux 1-0. Donc c'était une défaite importante pour les Bordelais qui ont raté leur fin de saison complètement. Hein.
Sochaux, Bastia Le Havre, tu t'es planté, je crois là.
Ah bon, Bastia Le Havre, c'était 1-1. Pourtant, c'était.
Non, mais c'était le match, c'était Metz-Bastia le dernier match.
Non, je parle de la 37e journée, la week-end du jour. On est du week-end de Pentecôte, Stéphane. Voilà, comme on n'était pas là. Donc c'est bien Bastia Le Havre 1-1, victoire de Annecy devant Bordeaux 1-0. Sochaux qui a encore perdu. Ils ont complètement loupé leur fin de saison. Ah ouais. Battu par Metz 1-0. Et puis, Caen Saint-Etienne 2-2. Le Paris FC nul à Dijon 1-1. Victoire de Pau à Rodez 3-2. De Laval devant Nîmes 2-0. Et Valenciennes qui bat Grenoble 1-0. Et pour la 38e et dernière journée, on y était. Le Havre a battu Dijon 1-0. Metz a battu Bastia 3-2. Bordeaux-Rodez, on y reviendra. Hein. C'est malheureusement la décision. Elle tombera, je crois, que la semaine
lundi
prochaine.
Prochain,
match oui. arrêté 1-0 oui, pour Rodez au bout de 23 minutes. Pau qui bat Caen 1-0. Nîmes qui bat Sochaux 3-1. Paris FC qui bat Annecy 1-0. Et Saint-Etienne qui bat Valenciennes 2-0. Alors, moi, je veux dire chapeau à LHJ parce qu'il y a 15 jours. Dans le point foot, on disait Bordeaux est en ballotage favorable, ça devrait le faire. Elle a dit, nous avait dit attention, les Messins n'ont pas dit leur dernier mot. Le Havre et Metz donc monte en Ligue 1 la saison prochaine. Elle a dit.
Pour l'instant, oui. Bon, pour l'instant, après, on ne sait pas encore ce qu'il en est du match de Rodez et Bordeaux. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est Metz qui se qualifie. En tout cas, ils ont une avance très confortable parce que même si le match reprenait à 1-0, voilà, faudrait gagner quand même de 3-4 points. Ça serait.
Non, mais de toute façon,
c'est raisonnable.
De toute façon, il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas parlé. Hein, mais de toute façon, même si le match se refait. De toute façon, Bordeaux ne montrera pas. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une jurisprudence qui fait qu'ils vont avoir, pour les débordements, pour ce qui s'est passé, des points de pénalité.
Oui.
Donc même s'ils gagnent le match, de toute façon...
Ouais, ça peut être
non. Comme Saint-Etienne.
Saint-Etienne.
Nice, ils étaient partis avec la saison.
Oui, mais Nice a été tout de suite sur la saison. Donc maintenant, il y a une jurisprudence vis-à-vis de ce qu'a eu Nice. Les points de pénalité, ils les auront maintenant. Ils gagneront le match avec des points de pénalité et ils ne monteront pas. Après, la seule différence, c'est est-ce que Rodez va gagner ou est-ce que Rodez va perdre. Et là, c'est l'avenir d'Annecy sur le match.
Oui, bien sûr.
C'est pas l'avenir de Bordeaux qui joue.
Justement, parce que pour l'instant, donc Laval, 75 points, champion de Ligue 2, devant Metz, donc deuxième, 72. Ces deux équipes remontent en Ligue 1. Bordeaux, pour l'instant, c'est suspendu, troisième, 69. Bastia, quatrième, 60. Cinquième, Caen, 59. Sixième, Guingamp, 55. Septième, le Paris FC, 55 aussi, qui a bien fini le Paris FC. Hein, ils ont bien fini la saison. Huitième, Saint-Etienne, quand même, 53 points.
Ils avaient débuté avec moins 3.
Hein.
Ils ont fini dans le top.
Malgré qu'ils ont été pendant de longs mois dans
la zone rouge.
Et 9e, Sochaux 52. Alors eux, ils ont raté leurs 5 derniers matchs. Ils ont perdu leurs 5 derniers matchs. Ils jouaient la montée et ils ont craqué.
Mais pourquoi? Parce qu'ils laissent partir Omar Daf.
Oui,
si tu laisses pas partir Omar Daf. Quand Omar Daf est à Sochaux, ils sont 4e ou 5e. Mmh. Donc voilà.
Après, il fait descendre Dijon. Hein. C'est pour ça que tu es en foot.
Le côté, c'est pas une question d'entraîneur. C'est toujours le mariage, Stéphane, entre l'entraîneur et le club. Omar Daf à Sochaux, il était très très bien. Donc le côté, c'est moi, je m'en fiche ce qu'il fait à Dijon après. C'est pas la question. La question, c'est le président de Dijon, le président de Sochaux, qui fait une connerie de ne pas garder Omar Daf quand il est dans un côté pour les faire monter. Mmh. C'est ça, d'un côté.
Ouais. Donc, Sochaux, 9e, 10e, Grenoble, 51, 11e, Quevilly-Rouen, 50, 12e, Amiens, 47, 13e, Pau, 47. Et alors là, c'est là qu'on arrive ensuite, pour l'instant, à un classement à l'heure actuelle. Hein. Le 14e, c'est Laval, 46, 15e, Valenciennes, 46, 16e, Annecy, 45, et 17e, Rodez, 43. Donc, pour l'instant, on va attendre. Hein. Mmh. Ça, c'est le classement actuel. Et puis, bah, descendre, c'est quand même incroyable. Donc, 18e, Dijon, 42, 19e, Nîmes, 36, et 20e, Niort, 29, Dijon en national, en 3 ans.
Et même Nîmes.
Oui, bah, Nîmes, ils ont déjà, ils sont remontés, ils sont redescendus, ouais, mais Dijon même. D'un coup. Hein,
et ouais. Nancy.
Oui, non, mais ça, on va en parler. on va en parler. Mais c'est vrai que.
Des clubs mythiques comme ça.
Ouais,
parce Dijon n'est pas un gros club mythique.
Non, non.
Alors
non.
Que Nîmes et Nancy, c'est
oui,
des clubs mythiques.
Mais Nîmes, ils étaient déjà descendus, même en national. Ouais, ils étaient remontés, ouais, puis ils sont remontés. Ouais, ouais. Que Dijon, bon, c'est la chute en 3 ans. Et c'est Georges
Nicotadze,
voilà, qui est meilleur buteur avec 23 buts. Voilà,
super buteur cette saison.
Oui, Guy.
Et la meilleure attaque, c'est Metz.
Voilà, c'est bien.
61 buts. Et Le Havre, la meilleure défense. 19 buts seulement.
19 buts, bah, c'est vrai que c'est une équipe défensive. Hein. On a vu le match.
C'est une équipe défensive.
C'était pas un grand match de foot. Hein. Bon, ils ont gagné 1-0, mais bon, c'est vrai que le niveau n'était pas très, très relevé. Bon, on écoute la deuxième pause musicale. Ensuite, on va finir sur le chapitre foot.
Hein. Juste un petit anecdote.
Oui, alors vas-y.
Est-ce que vous savez pourquoi le maillot du Havre
non.
est bleu ciel et bleu marine?
C'est en lien avec un club anglais.
Avec la marine. Ah ouais.
Ah oui, voilà. Tu l'avais raconté la dernière fois.
Voilà.
Le club du Havre, d'ailleurs, il s'appelle le Havre Athletic
Club. Et c'est le plus ancien club.
Athletic avec un C.
Allez, on est.
Attends.
Ouais, vas-y.
Juste parce que le bleu ciel, c'est les couleurs de Cambridge.
Exactement.
Et le bleu marine, celle d'Oxford.
Ah exactement. Oui, d'accord, c'est pour ça. Super intéressant.
C'est
ça.
Parce qu'ils ont créé le côté au foot et c'est un des plus anciens clubs français.
C'est le club doyen.
Exactement.
Ça, les vrais, ça valait vraiment
et ça,
la peine.
Ça, c'est le QI foot. Mais
ouais,
oui.
Hein,
et
ça valait vraiment la peine. D'attendre, tiens, hommage à Lens, Pierre Bachelet, les
voilà.
Allez.
Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays et je lui dois ce que je suis. Oh, c'était les c'était l'horizon. Les hommes des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, dans où je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays. Grâce à eux, je sais qui je suis. Oh non, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. C'était l'horizon. Les hommes des mineurs.
y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Oh non, c'était les cons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond.
Allez, on passe maintenant au championnat national. Une dernière journée, hein, c'était la semaine dernière, hein, c'était le week-end de Pentecôte. Hein. Concarneau a battu Orléans 2-1. Dunkerque est allé gagner au Mans 3-2. Le Red Star a battu Saint-Brieuc 2-0. Défaite de Versailles devant Martigues 4-3. Et puis le Paris Atlético battu pour son dernier match 3-2 par Châteauroux. Donc je ne vais pas vous donner le classement complet, mais on va dire que c'est Concarneau qui monte. Hein, premier avec 62 points, plus 23 au goal average. Devant Dunkerque, deuxième, qui retrouve la Ligue 2 avec plus 18. Le Red Star échoue au pied, donc j'allais dire du podium pratiquement, troisième avec donc 60 points, quatrième Martigues 60, plus 21 au goal average pour le Red Star et plus 14 pour Martigues, et cinquième Versailles qui a mal fini la saison avec 51 points. On va rappeler que le Paris Atlético, naturellement, LAG descend 17e, comme on le disait, avec 31 points.
Oui, bon, ouais. Ils descendent. Bon, ça fait un moment qu'on savait que les carottes étaient cuites, hein, et, ouais. Voilà. Ouais.
Alors justement, on en parlait, il y a 6 équipes qui descendent, et parmi les 6 équipes, Guy, il y a le club de Michel Platini et d'Olivier Rouillet, Nancy, puisque Nancy, Bourg-en-Bresse, Saint-Brieuc, Le Puy, Paris, Atlético et Borgo descendent, et ce sont Rouen, Épinal, Marignane et le Gol FC qui montent la saison prochaine donc en national.
Ah ouais, c'est incroyable.
Nancy, c'est incroyable quand même. Nancy, on parlait toujours, mais Nancy,
ah
mythique.
Oui, c'est incroyable, incroyable.
C'est une déception.
L'équipe qui a gagné la Coupe de France.
Oui, oui, oui.
Enfin bref.
Ouais. Stéphane, un petit mot.
Ça faisait un moment déjà.
Ouais, bah,
sur Nancy.
C'est absolument hallucinant de voir, de voir ça. Mais le problème, c'est que c'est, je pense qu'il est hyper compliqué de lire le championnat national déjà et de voir les résultats. Parce que de ce qu'on est, tant qu'on n'y a pas été, qu'on n'a pas partagé ce championnat ou joué ou avoir des fonctions, on peut difficilement le comprendre, quoi. Ouais. Mais il se passe des choses hallucinantes dans ce championnat. Un des exemples, on parle, bon, il y a Nancy, bien sûr, c'est un exemple criant. Et un autre exemple, c'est Versailles, par exemple. Ouais. Versailles qui est pareil, il y a deux mois.
Qui a un nouvel actionnaire, hein. Qui a un nouvel actionnaire.
Ouais.
Hein.
Ouais, qui vient de reprendre la majorité des parts. Et effectivement, bon, on s'inquiétait beaucoup des gens qui sont arrivés, qui sont partis, de l'argent qui a été mis. Ouais, il y a un nouvel actionnaire maintenant qui arrive, mais si on a, bref, quoi, c'est très compliqué. Et c'est ce qui, je pense que c'est ce qui ne marche pas en national. À une époque, on parlait de Châteauroux, je crois aussi, qui a été racheté. Bon, le Red Star, ils sont passés tout près. Mais bon, c'est très, très compliqué. C'est Concarneau et c'est qui l'autre équipe?
Dunkerque. Donc, qui remonte. Les Bretons et les Nordistes, ils sont en force. Hein. En Ligue 1, Ligue 2,
voilà.
C'est en force. Hein.
Ouais. Et deux équipes qui même, bon, Dunkerque a été déjà, oui. a déjà été
bah, en remonte, Ligue 2. Il remonte.
Il n'y a pas longtemps, il remonte. Peut-être la saison dernière même.
Hein, ouais, oui, il remonte cette année. Ouais. Voilà.
Et, mais bon, c'est quand même pas des équipes hyper prestigieuses. En début de saison, on aurait pu dire, bah, ça sera Versailles, ça sera Nancy, ça sera le Red Star, je sais pas.
T'as Châteauroux, t'as Le Mans.
Oui. Alors justement,
Châteauroux met des moyens, avait mis.
Ouais, mais ils sont au milieu de tableau, ils terminent 11e avec 44 points. Orléans est juste devant 44 points, mais un goal average supérieur. Et Le Mans 12e avec 43 points. Ce sont des clubs qui ont joué en Ligue 1 il y a encore quelques années.
Et les coachs ou les joueurs, les coachs, moi j'ai un très bon ami qui a coaché longtemps en national, il me dit ça a rien à voir avec les autres championnats. Un très bon joueur de même de Ligue 1 peut final et puis pas arriver à mettre un pied de l'autre, quoi. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est vraiment un monde à part, quoi.
Donc, allez, bah, voilà. Voilà. Allez, on parle des féminines, 22e journée, on ne va pas oublier, hein, puisque Jean-Michel Aulas va finir l'année en beauté. Il y avait une dernière journée, Lyon a écrasé Reims 7-1. Paris FC a aussi gagné à Soyaux 3-0. Victoire du Paris FC à Rodez 4-0. Et Fleury Mérogis qui bat Guingamp 6-0. Donc Lyon a fait le doublé après la Coupe de France. Il gagne donc le championnat avec 61 points. Devant le Paris Saint-Germain, deuxième 55. Le troisième, Paris FC 42. Et quatrième, Fleury 39. Bon, Stéphane, ce championnat, on s'y intéresse quand même?
Bah oui, on s'y intéresse. Alors après, il y avait un start du moment où Lyon a quand même une avance, mais qui était malheureuse, quoi, qui était en train quand même de pas mal se réduire avec le Paris Saint-Germain. Et puis t'as le Paris Saint-Germain qui perd ses deux meilleures joueuses, quoi, une pour toute la saison, qui a pas joué de la saison, hein, Katoto, et l'autre sur les matchs clés de toute la fin de saison, notamment le match contre Lyon, ça. Bah, et après, il y a plus photo, de toute façon, il y a plus photo. Déjà, ils sont plus forts, hein, si en plus, donc il y avait pas photo, quoi, puis c'est tout. Donc bravo, chapeau à Lyon, c'est 16e. Je crois que c'est le 16e. Non, c'est
oui,
pas le
16e. Oui, oui, si, si. 16e titre de. C'est le palmarès le plus fourni, hein, 16e titre de championne de France.
Ouais, donc c'est très, très impressionnant. Je dirais que les taux, l'écart se resserre. Je ne sais pas si vous avez vu la sortie de l'entraîneur du Paris Saint-Germain après la défaite à Lyon, qui a massacré les Lyonnaises, qui a dit bah, c'est ça le plus beau, la plus belle équipe du foot français, comment ils jouent et tout. Et bon, bref, il a je ne sais pas si c'était de l'amertume, d'aigreur ou de la je ne sais pas quoi, mais qui a entraîné Lyon avant. Mais bon, voilà, l'écart se redresse, mais je pense qu'en tout cas, cette année, il n'y avait strictement rien à faire, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Je pense que c'est. Non, mais surtout, c'est on est d'accord.
Surtout, Stéphane, tu peux pas gagner le championnat quand tu mets 45 buts. Lyon, les Lyonnaises, ils ont mis 69 buts.
Ouais, mais regarde,
c'est là que la différence, ça se fait. Parce qu'en défense, en défense, Lyon a pris 9 buts. Les Lyonnaises ont pris 9 buts et les Parisiennes ont pris 12 buts. C'est pas en défense que ça se joue. Mais quand tu regardes 45 buts et 69, c'est là que tu vois que la diff' est fait. C'est obligé.
Mais elle joue quel poste, Eric? Elle joue quel poste, Marie-Antoinette Cato?
Ouais, mais bien sûr. Mais il y a pas.
Et elle était quoi l'année dernière? Elle était meilleure buteuse, je crois, de Ligue 1.
Le côté, c'est que moi, tu sais, Stéphane, pourtant c'est mon club, hein, mais le côté des blessures, ça peut jouer une saison, mais ça peut pas jouer sur les 5 dernières. Donc au bout d'un moment, c'est au club de prendre les bonnes décisions. Cette année, ils sont en train de se dire qu'il faut investir sur les bons profils et non pas juste voilà. Et il faut garder aussi les bons profils. Il faut savoir faire. On peut tirer le chapeau à Jean-Michel Aulas, ce qu'il a fait depuis. Alors on met 16, mais moi je regarde les 5-6 dernières. Il a su garder les bonnes joueuses et il a su investir sur les bonnes joueuses. Voilà, au bout d'un moment, tu mets, mais même pas qu'au niveau argent, hein, même pas que.
Ouais, non, mais tu. Regarde, moi, je t'ai dit juste pour résumer, hein, qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Lyon est au-dessus, l'écart est en train un peu de se rétrécir ces dernières années. Si tu enlèves les meilleures joueuses du PSG, il ne se rétrécit pas. Effectivement, c'est injouable. Donc, c'est injouable. Mmh. Je constate juste, comme tu l'as dit, que le secteur défensif, ça joue à peu près, ça joue sur le secteur offensif, et c'est là que le PSG a perdu ses deux, en tout cas sur la fin pour Diani, je ne sais pas combien de matchs elle a raté en tout sur la saison, et Katoto, ses principales joueuses, c'est tout. Bien et sûr. Ils n'ont pas mis l'argent. Maintenant, il n'y a pas photo, ils sont en avance, Lyon, ils sont en avance, c'est mérité, et puis voilà, mais on a vu en Ligue des Champions, ils étaient un petit peu moins en avance. On a vu en championnat ou en coupe ces derniers temps que c'était un peu plus compliqué avec le PSG et contre le PSG. Et puis effectivement, il peut pas y avoir, effectivement, il n'y a pas photo.
Il faut investir pour le championnat et la coupe d'Europe.
Très bien. Alors, on va rappeler quand même qu'en Ligue des Champions, chez les féminines, hein, le Barcelone a battu Wolfsburg 3-2 et remporte donc cette épreuve dont le Paris Saint-Germain et Lyon ont été éliminés en quart de finale. On va finir avec le foot étranger. Je sais qu'Aladji, il rate pas un match. Manchester City, donc champion en Angleterre, ils ont fait le doublé puisqu'ils ont battu Manchester United 2-1.
Voilà, ils ont fait
peut-être le triplé avec samedi.
On en parlera la semaine prochaine, mais oui. Voilà.
Et Haaland, meilleur buteur, 36 buts.
Haaland, meilleur buteur. Harry Kane, deuxième meilleur buteur, qui va peut-être rejoindre le Real Madrid. Mm-hmm. Ça reste à voir encore. Mais voilà, Haaland, il a fait une superbe saison, hein, il n'y a rien à dire. Harry Kane, une meilleure saison pour moi, selon moi, parce que dans l'équipe de Tottenham, il faut vraiment tout faire et il a été au four et au moulin. Et voilà. Et voilà, après, Manchester City, c'est une très belle équipe. Ils ont, voilà, maintenant, on va voir s'ils vont réussir à faire le triplé ou pas. Ils ont battu Manchester United. C'était un match difficile quand même. La finale était un match difficile, mais voilà, ils ont quand même réussi à s'imposer. De l'autre côté, dans le championnat italien.
Alors, en Italie, oui, alors justement, c'est Naples qui est champion avec 90 points, devant la Lazio de Rome, 74 points. Et c'est Osimhen, donc qui termine meilleur buteur avec 26 buts en 32 matchs.
Oui, Osimhen. Voilà, un monstre, tout simplement. Il a tenu sa cadence toute la saison en enchaînant but, but sur but et des doublés et des buts de... Voilà, c'est vraiment un attaquant complet. Osimhen est vraiment un attaquant complet. Il marque des buts de la tête fantastiques, il marque des deux pieds. Franchement, c'est un joueur complet et j'espère qu'il viendra au PSG.
En tout cas, en Allemagne, on en parlait avec Guy tout à l'heure, le Bayern de Munich s'impose sur le fil devant Dortmund, hein, avec 71 points, mais il y a un goal average largement supérieur, plus 54 contre plus 39. C'est ce qui fait gagner le Bayern. À noter donc que Leipzig a gagné la finale de Coupe d'Allemagne ce week-end. Ils ont battu l'Eintracht Francfort 2-0.
C'est ça. Bah, RB Leipzig ont battu... avec un très bon Nkunku qui est revenu en force pour ses derniers matchs et il voulait gagner, je pense, un trophée avant de partir à Chelsea.
Oui. Il est meilleur buteur avec ton ami Fulgur.
Oui, Fulgur.
Fulgur, ouais. 7 buts. Hein. Voilà. C'est le meilleur buteur.
Oui, c'est le meilleur buteur. Mais en sachant qu'il a été blessé toute la moitié de saison.
Oui, il a fait 25 matchs à Nkunku alors que Fulgur en a fait 28.
Fulcruc.
Ouais. Il est dur à dire. Hein. Ouais.
Voilà. Et franchement, je suis un peu dégoûté pour Dortmund, mais c'est exactement ce qu'on dit. Hein. Ils n'ont pas la cadence d'être un champion parce que là, sur les trois derniers matchs, Bayern, ils font deux faux pas. Et sur les deux faux pas, Dortmund, ils doivent accrocher le bon bout. Et voilà, il te reste 2-3 matchs pour devenir champion. Depuis 11 ans, tu ne l'as pas été. Tu dois assurer le coup. Dernier match, tu joues à domicile. Tu as un public de fous qui sont venus depuis 10 heures. Ils t'attendent devant le stade et ils sont en train de t'acclamer devant le stade depuis 10 heures avant le début du match. Tu joues contre Mayence qui est une équipe qui n'a rien à jouer. Franchement, tu dois les battre. Tu dois les battre.
C'est
clairement.
C'est un problème mental. C'est pas un problème de football.
Oui, non,
le côté,
non,
c'est que moi, mental, pour moi, réellement, ils ont joué le match la veille déjà dans leur tête et c'est ce qu'il fallait pas faire.
Ouais. C'est ça.
Alors, en Espagne, donc, on en a parlé longtemps. Hein, Barcelone, donc champion, avec 88 points devant un Real 78 et l'Atlético de Madrid, donc 77. Et c'est naturellement Lewandowski qui est meilleur buteur.
Voilà, hein, Lewandowski.
Mais le titre était avec 23 buts.
Oui, Lewandowski qui a été le pitchy.
En 34 matchs.
Voilà, bon après, bon quand même, en temps normal, il fait de meilleures saisons. Quand même, cette saison pour lui a été un peu difficile quand même, parce qu'il faut penser que de l'autre côté, Karim Benzema a été beaucoup blessé. Je pense que c'est mérité quand même. Et de l'autre côté, Karim Benzema qui prend sa retraite. En tout cas, enfin, prend sa retraite dans les 5 grands championnats.
Ouais. On en parlera dans les transferts qui vont arriver. Mais enfin, Ibra s'arrête, Ibrahimovic s'arrête. Et puis, Benzema part en Arabie Saoudite.
Grosse dédicace à Ibra.
Grosse dédicace à Ibrahimovic qui va beaucoup nous manquer. Oui.
Allez, avant de finir avec la rubrique de Stéphane coup de gueule, juste un petit mot sur les Coupes d'Europe. Donc, Séville qui a remporté sa 7e Europa League, 1-1 après prolongation, 4-1 au tir au but. C'est incroyable, Philippe, quand même, cette équipe reversée de Ligue des Champions.
Philippe, c'est enregistré encore.
Oui, non,
avant le match contre Manchester United, je l'avais annoncé.
C'est vrai,
j'ai annoncé que Séville allait gagner la Ligue Europa et que la seule équipe
qui aurait pu...
la seule équipe qui aurait pu empêcher le FC Séville de gagner, c'était Mourinho. Il a perdu.
Et il faut tirer. Il faut tirer.
Quelle culture de la victoire.
Il faut tirer vraiment son chapeau au coach de Séville qui est Mendy Labal et qui est un coach qui son plus grand club, le plus grand club qu'il a fait, c'est Eibar, mais où il a fait progresser énormément de jeunes. C'est un coach qui est totalement sous-coté en Espagne. Alors, je veux pas dire que c'est du Guardiola ou autre, etc., etc. Ne montons pas sur les trucs. Hein. Mais réellement sous-côté. Et réellement, si vous regardez tactiquement, parce que la finale, franchement, c'est... moi, quand on me dit que voilà, certains supporters voulaient Mourinho au Paris Saint-Germain, c'est pas pour ça qu'il viendra pas. Mais c'est pour autre chose, Philippe. Mais c'est pas pour ça. Mais réellement, le coach de Séville a donné une leçon de football à un très grand grand coach, hein, je dis rien. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que c'était dégueulasse à regarder.
Oui, c'est vrai.
Réellement. C'est vrai. Si c'est tu veux, finale, avec hein. l'équipe que tu as à Rome, ils ont fait. Séville a fait un mercato de 35 millions d'euros cette année. 35 mmh. millions d'euros. Mmh. Donc on va pas me dire que Séville avait une équipe surdimensionnée
vis-à-vis de Rome. Rome, tu sais, ils ont fait un mercato à combien? 7 millions d'euros.
Oui, mais
7 millions mais d'euros. Derrière, mais faut préciser aussi.
Non, mais derrière elle a dit.
Excuse-moi, Eric.
Non, mais elle a dit, t'as Abraham. Excuse-moi, Eric. T'as Pellegrini.
Abraham, cette saison, il a fait.
Pas me dire ça.
Pour moi, Abraham. Pas me dire ça. Pour moi, attends, il était à Chelsea, il jouait pas beaucoup. Non. Pour moi, là, il est arrivé. Il était à Chelsea, équipes, il jouait pas beaucoup. Il est arrivé, pour moi, il a fait une bonne saison, Abraham. Vers le début de saison, tu voyais ce qu'il faisait. Dybala, non, absolument pas. Je veux pas le hyper. C'est juste, je regarde ce qu'il fait. Dybala, attends, tu vois ce qu'il a. L'AS Rome n'a jamais gagné de Coupe d'Europe. L'année dernière, il leur fait gagner la Conference League.
C'est impossible.
Attends, l'année dernière, il leur fait gagner la Conference League. Mais tu veux jouer comment avec cette équipe-là?
T'es pas
sérieux. Non, mais je suis archi sérieux.
Pellegrini, Dybala, Abraham.
Dybala a été blessé, il a joué 60 minutes. Il n'était même pas censé jouer 60 minutes. Dybala a été blessé, il a joué 60 minutes.
Attendez.
Il n'était pas censé jouer 60 minutes.
Je sais pas, Stéphane va nous dire.
Non. Excuse-moi, Eric. Impossible. Moi, je te dis en tout cas.
T'as regardé la finale, elle a dit.
Bien sûr, j'ai regardé la finale.
C'est pas possible.
Eh ben, Lyon. Et tu pestais pas, tu trouves que Mourinho il a fait ce qu'il fallait.
Catastrophique.
Comment?
Catastrophique.
Tu trouves pas qu'il a fait un coaching catastrophique?
Non, je trouve pas qu'il a fait un coaching catastrophique. Je trouve juste qu'il a fait avec ce qu'il avait. Je pense juste qu'il a fait avec ce qu'il avait. Attends, il a fait jouer Dybala 60 minutes. Tu voulais qu'il le fasse jouer combien de temps?
Ah non, ça c'est.
Non, mais parce que la clé de cette histoire c'est Dybala. Et quand Dybala n'est pas là avec l'AS Rome, on l'a vu. Quand il n'est pas là, l'AS Rome ne gagne pas. Quand il est là, ça change. On le voit, que ça soit dans le jeu et en termes de.
Elle a dit, tu sais que l'attaque
de. À Paris, mais j'espère qu'il
Franchement, en tout cas, pour moi, c'est le seul excusez-moi de l'expression, c'est le seul qui avait les couilles pour tenir un vestiaire comme le PSG et dire aux gens ce qu'il a à dire. Oui, mais non, mais nous, ce qu'on veut, c'est des trophées. Ouais. C'est un homme de trophées, Mourinho. Tu peux le mettre n'importe où, il va se débrouiller. Il a pas besoin d'être comme Pep Guardiola. Tu lui ramènes des machines de guerre, des joueurs à un banc extra large et des joueurs de haute qualité pour gagner quelque chose. Il n'a pas besoin de ça, Mourinho. Tu lui alignes 2-11 bouts de bout de bois, il gagne quelque chose à la fin de l'année. Et on l'a vu à l'AS Rome. Parce qu'on l'a vu à l'AS Rome. Mais oui, c'est facile. Mais non, mais c'est facile. Si, c'est facile de prendre les.
Comme
on peut dire, Pep Guardiola, on l'a vu au Bayern. Il avait une équipe fantastique. Il a jamais gagné de Coupe. Il a jamais gagné de Coupe d'Europe avec.
Mais pour te dire, du coup, c'est facile
de pointer. Mais pour moi, il arrive. Excuse-moi, Eric, laisse-moi terminer. Pour moi, José Mourinho, à l'arrivée à l'AS Rome, ils ont jamais gagné de Coupe d'Europe. Ils gagnent la Conference League. La saison d'avant, il arrive, première saison, il gagne la Conference League. La deuxième saison, il les ramène en finale de Ligue Europa. Mais à partir de ce moment-là, il a complètement réussi ses saisons. Il a fini dans le top 5 à chaque fois. Tu veux parler de quoi d'autre? Cite-moi un joueur de classe mondiale à l'AS Rome.
Tu fais ton déroulé pendant 15 ans.
C'est bon. Et après,
moi, je veux bien, elle a dit. Mais laisse-moi
Eric,
juste te répondre.
Et après, on finira avec Stéphane. Parce qu'après...
Juste le côté, elle a dit. Le côté, c'est que toi... Ton seul truc, moi je le veux pas pour mon club, pour la simple et bonne raison, c'est que toi la seule chose qui t'intéresse, c'est que
il nous fasse gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse.
Oui, mais pas moi.
C'est tout ce qui m'intéresse. En premier lieu.
Mais Nadji, laisse-moi finir.
En premier
lieu. Mais pas moi. Moi, ce qui m'intéresse, parce que moi, je paye mon abonnement au Parc des Princes. Mmh. Donc moi, je vais voir un spectacle. Moi, je vais pas voir juste un trophée où je me fais chier toute la saison. Ça m'intéresse pas. Le côté. Et pour avoir un vestiaire où au bout d'un an et demi, tout le monde explose, etc. etc. Le côté de prendre un coach.
T'as pas assez
à Paris.
Faire, Eric.
Mais si, le côté,
non,
c'est ça.
Tout. C'est bon.
Mais allez, le côté, c'est ça.
Et c'est faux, il fait avec les moyens du bord. Là, tu crois qu'il arrive avec Mbappé? Tu crois qu'il arrive dans une équipe comme le PSG, il va jouer défensivement? Tu penses que sérieusement, il va appliquer les mêmes choses? Quand il était au Real Madrid, tu regardais pas le Real Madrid?
Mais Tottenham, il avait Kenson, etc. Me dis pas qu'il avait rien. Arrêtons.
Mais tu voulais. Attends, avec Harry Kenson, tu voulais qu'il fasse quoi en première ligue? Mais t'as vu les autres équipes en première ligue? Qu'ils ont.
Bon, alors,
ils ont chacun un Son et un Harry Kane sur le banc.
Ranieri, il a gagné le championnat. Qu'est-ce que tu racontes?
Mais il est arrivé avec qui?
Rien.
Mahrez, N'Golo Kanté, c'est rien.
On en reparlera.
C'est rien.
Contre les autres équipes.
C'est rien. Non, mais c'est
Eric,
rien. Non, arrête.
Ça n'est
pas rien. Bon, ça n'est pas rien. Comme on peut dire, il a gagné Porto avec rien. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto et c'est avec rien. Il a gagné la Ligue des Champions avec Porto et c'est avec rien.
Mais si tu veux avoir raison, tu peux avoir raison.
Non, c'est pas question de raison. C'est mon point de vue. Je suis pas d'accord avec toi.
Il ne viendra pas.
Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Mais mieux pour nous.
Le but c'était.
Pas pour moi. Pour toi peut-être, mais pas pour moi.
Eric, on aura l'occasion de refaire des émissions sur le Paris Saint-Germain, sur les transferts. On aura largement l'occasion. Il va y avoir la Q-Foot qui va être en stand-by. On finit avec donc le coup de cœur, coup de gueule de Stéphane. Et après, c'est notre ami Valentin qui prendra la parole. Stéphane, coup de cœur, coup de gueule pour finir cette émission de foot.
Ok, on
est imparti par le temps, hein, donc voilà.
Ouais, non, mais on a parlé déjà de beaucoup de choses. Hein.
Oui, alors si tu as un petit quelque chose à rajouter.
Ouais, c'est pas évident avec l'Ukraine, hein, c'est pas facile. Surtout de revenir sur les bons souvenirs alors qu'il y en a des mauvais qui viennent de passer.
Oui.
Ah, bah moi, je vais pas la faire effectivement la rue parce qu'on a quasiment tout dit.
Oui.
Mais je dis simplement que moi, la saison n'est pas terminée.
Il y a les Coupes d'Europe, il y a l'équipe de France.
Elle n'est pas terminée parce qu'il va y avoir la Ligue Europa Conférence avec West Ham et la Fiorentina. Et la soirée de gala du 10 juin avec la finale de la Ligue des Champions. Et alors là, moi, je dis ce qui se fait de mieux pour moi aujourd'hui en termes de football, Manchester City. J'avais prédit une correction pour les Madrilènes en demi-finale. Eh bien, sans aucun grain de sable, s'il n'y a pas de grain de sable qui vient se mettre dans la machine, hein, genre un tampon de Rudiger sur De Bruyne en 2021 ou une prise de judo de Ramos sur Salah en 2018, ça sera la même chose.
C'est-à-dire
que le foot va être bafoué sinon. Bon. Si Manchester United gagne ou pas. C'est ce qui va se passer parce que Manchester City est dirigé par un génie du football. Certainement, aujourd'hui, c'est une des meilleures équipes de l'histoire du foot. Un très, très gros coup de cœur pour cette équipe. Ça, c'est un plaisir. Vous savez que vous n'allez pas vous embêter. Même, je ne dis pas sûr et certain ils vont gagner, je l'espère. Mais en tout cas, tu sais que tu ne vas pas t'embêter quand tu vas regarder jouer Manchester City.
On en parlera la semaine prochaine. D'accord ? On fait le bilan la semaine prochaine ?
Ok, pas de souci.
Voilà, en tout cas, merci. Je voudrais donner la parole à Valentin. Merci pour cet abondant point foot. Et puis, les transferts, on aura largement l'occasion de les réévoquer dans les prochaines semaines. Hein. Ok.
Ok, allez, bonsoir à tous.
Merci Stéphane.
A plus Stéphane.
À tous, ciao.
Merci. À bientôt Stéphane.
Voilà. Allez, Valentin, à toi, t'as vu, après ces débats très animés. Hein.
Eh ben c'était voilà. Animé. Hein, des deux côtés, il y avait des raisons, hein, on peut les entendre. Ouais.
Voilà. Alors, donc, Valentin, toi, t'as passé toute ta semaine à Roland-Garros.
Roland-Garros, basket, NBA, hein, tout
alors,
ça.
Alors, hein. On va rappeler que, donc déjà, un point sur la première semaine, il n'y a plus de Français et de Françaises au bout de...
On a pris l'habitude. On a égalé le pire record de 2021, au niveau des Français éliminés. Très très tôt dans la compétition, donc c'est quand même on sortait d'une crise sanitaire, bon ça peut se comprendre, mais bon c'est un peu la blague et que chaque année on dit bon bah les Français ça n'a pas passé le premier tour et ça...
Eric il postule hein, pour les
il y a pas de souci et il y a on peut retenir la performance on va dire de guerrier de Gaël Monfils qui revient de nulle part et malheureusement bon sa blessure au poignet l'a emmené à être après disqualifié du tournoi enfin d'abandonner mais c'est le seul gros point marquant qu'on peut retenir où ça et le coup de gueule de Tsonga sur Prime Video qui dit que et il a sûrement raison que le tennis et les fédérations de tennis ne suivent pas assez les jeunes, ne font pas assez attention à eux, ne les éduquent pas dans le bon sens, juste les mettre tous 30 gamins dans la même case, tu dois jouer comme ça point barre alors que chacun a son jeu, sa différence et c'était ça aussi qu'on a des problèmes de fédération. C'est une grosse année de remise en question sur les fédérations françaises de football, de tennis, de rugby, même de basket. Donc, on va voir où ça vient.
De toute façon, on fera un bilan beaucoup plus détaillé la semaine prochaine, hein, donc après la deuxième quinzaine. Un petit mot de basket, donc les playoffs. La finale, elle opposera Monaco, qui a gagné ses trois matchs
face à
Bourg-en-Bresse, contre Boulogne-Levallois, qui donc, a gagné hier son troisième match décisif, 3-1.
À Lyon, ils sont allés gagner à Lyon. Donc Boulogne qui... encore montre une fois de ce qu'ils sont capables avec les deux futurs draftés en NBA qui sont Koulibaly et Wembanyama. Donc c'est une grosse saison. On s'y attendait un petit peu que ce soit Monaco, Levallois. On va pas se mentir, on aurait été un peu déçus que ce soit pas ça comme finale. Après, tout aux honneurs des autres équipes. Levallois qui a eu du mal face à Cholet au premier tour. Cholet qui a failli faire la surprise. Mais ils se sont bien repris. Puis face à Lyon, Lyon était champion de France l'année dernière de la Betclic Elite. Mais cette année, bon, c'est un peu. On sent que leur. leur effectif, leur roster est un peu diminué. Et puis bon, le Valois, ça reste le Valois. Et quand Victor est en marche avec tous les petits jeunes à côté, avec Amarassi et puis même Koulibaly, ça déroule. Donc on verra bien. Mais petite pièce sur Monaco quand même, parce que je pense qu'ils vont quand même finir le job. Après une grosse saison historique pour Monaco même. Et puis ils ont quand même... un peu à travers la gorge leur défaite en demi-finale du Final Four, donc je pense que de l'Euroleague, donc je pense qu'ils vont aller finir tout ça.
Alors, entre ta semaine de Roland-Garros, quelques matchs de basket, tu as aussi
automobiles.
La possibilité de suivre deux Grands Prix de Formule 1, gagné la semaine dernière par Verstappen à Monaco et regagné hier à Barcelone par Verstappen. On s'ennuie un peu.
C'est comme les années Schumacher, c'est comme les années Hamilton. Ouais. Et puis bon, il y a quand même... à partir de la deuxième place, en fait, c'est pas comme les autres années où... C'est horrible de dire ça, mais à partir de la deuxième place, quand il y avait les années Hamilton, c'était souvent Bottas ou Nico Rosberg, qui gagnait le titre de championnat. Et quand il y avait Schumacher et les autres. Et là, on peut dire qu'il y a Verstappen et les autres. Mais
d'ailleurs, il est en tête. Hein. Intéressant, 170 points avec 5 Grands Prix gagnés. Le deuxième, c'est Perez, 117 points avec 2 Grands Prix gagnés seulement. Et le troisième, Alonso est loin, 99 points. Et c'est l'écurie Red Bull qui est en tête chez les constructeurs.
Oui, Aston Martin qui est juste derrière. Et Mercedes qui montre son bout de son nez, qui est là dans le coin. Et Ferrari, malheureusement, qui est décevant. Enfin, malheureusement, Ferrari est décevant depuis 2014. Mais là, ça se reconfirme. Monaco, on va pas se mentir, c'est comme Miami, on est là pour les stars, c'est comme le futur Grand Prix à Las Vegas.
Sortez du festival de Cannes, pour les stars.
C'est ça. Moi-même, j'ai vécu à Nice, je peux vous dire que le Grand Prix de Monaco, c'est une semaine assez particulière. C'est génial, tout simplement. C'est l'euphorie de la Formule 1. Ouais. Mais bon, nous, on est là pour voir les voitures passer près des rails. À tout moment, il y a des accidents. Donc. C'est un peu cette folie, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à des dépassements. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu du tout, il y en a eu un seul pendant ce Grand Prix. Et l'Espagne, bon, c'est un circuit, alors que c'est un peu bizarre de dire ça, c'est l'un des meilleurs circuits de tous les circuits possibles, dans le sens où votre monoplace, elle est... si vous voulez tester votre monoplace, c'est le circuit parfait. C'est-à-dire que les freinages, c'est génial, la dégradation des pneus, c'est génial, la chaleur. C'est vraiment, ce Grand Prix détermine vraiment le classement de la fin de saison, parce qu'on sait comment va se débrouiller ta monoplace sur les autres circuits. C'est le circuit le plus complet, tout simplement. Mais d'un autre côté, c'est le circuit où il y a le moins de spectacles. Parce que ça reste, ça montre le niveau pur de ta monoplace, et malheureusement il n'y a pas trop de spectacles, et on l'a encore vu, on s'est vite ennuyé, mais ça reste intéressant si on s'intéresse vraiment à la Formule 1 à partir de la deuxième, troisième place, et qu'on veut voir les batailles en piste, c'est très très intéressant, encore Verstappen.
Moins de dépassements,
il y a eu quelques batailles, d'ailleurs un dépassement à l'extérieur de Pierre Gasly, magnifique sur Tsunoda, c'est vraiment très très beau de faire ça. On a eu une petite bataille de stratégie entre Aston et Mercedes, entre Hamilton et Alonso, ça leur a rappelé les souvenirs de McLaren en 2007. Mais c'est vrai que c'est, pour le moment, bon, c'est Verstappen et on va pas se mentir, il se dirige tout simplement vers un troisième titre mondial.
Déjà.
Ouais. Hamilton, c'est une déception cette année.
Ouais. C'est Hamilton, déception. Hamilton, ça revient bien quand même. Il est devant son coéquipier George Russell, alors que la saison dernière, George Russell lui avait quand même mis un 16-2, je crois, en qualification. Donc ce qui était quand même. Ce qui était énorme, il s'était même fait éliminer en première séance de qualification, ce qui n'était pas arrivé depuis genre 2012 pour Hamilton. Donc c'est vrai que c'était une saison assez compliquée. Ils avaient une monoplace assez particulière, ils ont complètement tout changé dès l'Espagne. À Monaco, ils ont amené un nouveau setup, ils ont changé toute la voiture de A à Z. Et c'est vrai que depuis, au moins, ils arrivent à se battre pour la deuxième, troisième place, quatrième place. Donc Mercedes est de retour et ça ne va pas arranger Ferrari qui est dans le dur.
Ouais. Allez, de l'Espagne, on va en Italie pour la Formule 1, c'est dans 15 jours à Montréal. C'est Neuville qui gagne donc le rallye de Sardaigne, mais Rovan Perra est en tête avec 118 points devant donc Neuville 93 et 3e Tanak 85. C'est serré quand même les rallyes, puisqu'il y a 4e 83 et 5e Auger. Donc 70 points.
Mais c'est comme l'IndyCar, le rallye ou les courses d'endurance, le WEC. C'est une saison très très intéressante, vraiment à regarder. Ça fait du bien. C'est comme la MotoGP. On a dit que le champion du monde de l'année dernière, maintenant il est 9e, 8e, c'est un peu compliqué. Donc là où la Formule 1 a essayé de faire une nouvelle configuration avec des nouvelles règles de construction des monoplaces pour qu'on arrive plus à suivre, c'est plus la MotoGP et les autres sports automobiles qui sont plus intéressants à regarder. Ouais. Donc allez faire un petit tour si vous avez le temps, surtout le rallye, c'est très intéressant cette saison.
Et Toyota en tête avec 235 points devant Honda,
Toyota,
212
ça reste Toyota, hein.
Chez les constructeurs, et le prochain Grand Prix c'est le Kenya, le 25 juin.
Voilà.
C'est ça, exactement. Bah, Toyota, ça reste Toyota. Hein. Ils sont performants. Ils ont essayé de la Formule 1 quelques années, ça n'a pas marché. Ils sont revenus dans les années 2010, ça n'a pas fonctionné. Bon, franchement, ils ont trouvé leur catégorie.
Bon, la semaine prochaine, tu as un gros travail. Hein. Tu as Roland Garros, tu as les 24 heures du monde, tu as tout ça.
Ah, bah là, c'est le sport. Oui, voilà. Et puis le basket,
tu as Il y aura un bonheur. Voilà. Ça. Très bien. Merci, en tout
mais
cas. On va remercier nos invités. On a été très bavards. Merci. Ouais.
Excuse-moi, Elle Philippe, dit, j'avais une petite annonce à
mais
faire.
Mais vite, oui fais vite une annonce parce que.
Oui, j'organise un festival.
Bien sûr, bien sûr.
Ce week-end, festival populaire au stade Boutroux. 1 avenue Boutroux,
stade Pelé maintenant
qui s'est renommé le stade Pelé, voilà.
Oui.
Du coup c'est une entrée gratuite sur
Absolument.
Deux jours et on espère vous y voir beaucoup avec un concert en programmation, des projections cinéma et plein de jeux pour enfants. Du coup on espère vous y voir, l'entrée est gratuite.
Voilà, et après vous enchaînez sur la finale de Ligue des Champions. Merci Rick.
Très bien, merci à vous.
Ça a été encore très animé hein.
Mais comme le foot c'est le but
comme
du
d'habitude
foot,
hein. On aurait pu faire 3h 4h mais bon
voilà. Et encore il n'y avait pas Abou, donc Abou avec Marseille, ça aurait été encore pire.
Il se prépare demain,
il a arrêté de venir Abou.
Non, puis il se prépare pour Roland Garros demain.
C'est pour ça.
On l'envoie sur Roland Garros demain. Voilà. Merci Guy. À très bientôt.
À très bientôt.
Il y aura l'Euro l'année prochaine.
Oui.
Donc,
peut-être avant, si on fait l'émission.
Oui, bien
l'année
sûr.
Prochaine.
Tiens le mercato.
Oui, ah oui, il y aura des choses à dire.
L'année prochaine, Philippe, il va pas y avoir que l'Euro.
J'ai pas de vacances.
C'est un été sport en 2024.
J'ai pas de vacances, tiens. On va te faire plaisir pour la peine. On va finir avec Phil Collins. Who said I would?
Et ben voilà.
Voilà. Ça veut dire.
L'entrée du Parc des Princes.
Hein, qui a dit que tu me manquerais. Merci à Gaï d'avoir été une nouvelle fois brillamment en solo, comme il y a 15 jours. Hein. Et puis, écoutez, rendez-vous la semaine prochaine.
Bravo.
Bonne soirée à toutes
et à tous. Bonne soirée à toutes et à tous.
Bye.
Paris FM.